Bonsoir, bienvenue dans l'épisode 6 de Cyclocast, le podcast du vélo au quotidien. Ce soir, avec nous, il y a Prokylus.
Bonsoir.
Grincheux.
Salut.
Vincent.
Bonsoir.
Et moi-même, Mogor. On va commencer par les news. Grincheux, je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire, mais tu vas commencer par...
Ce que j'appelle des rétropédalages, donc des retours sur des news. Donc je crois que c'était dans le premier ou le second épisode, on vous avait parlé d'un bouclard qui référençait toutes les pattes de dérailleurs, mais on n'avait pas été capable de vous dire qui. Alors après discussion avec Prokylus, il semblerait que ce soit Sodicycle à Lyon.
Je confirme, et même par une source autre que
d'accord.
Toi.
Mais sinon, sur le web, si vous cassez la patte de votre dérailleur, et ben la référence sur le web pour trouver une patte de rechange, c'est SOS Anger. Donc je vais vous mettre le lien sur le billet du podcast. Une boîte française située à côté de Marseille qui a, je sais plus de 200 références de pattes de dérailleur. Voilà, c'était ce premier rétropédalage. Alors, deuxième rétropédalage, sujet très intéressant. Je vous ai parlé de ça il y a deux épisodes. L'indemnisation des trajets boulot à vélo, qui a été votée il y a maintenant une semaine. Enfin, était dans les discussions de vote. Alors, je me perds toujours dans les trucs législatifs.
Tu veux que je clarifie un peu la chose ?
Si tu...
Oui.
Sais...
Alors, en fait, il y avait une série de 13 ou 14 choses qui devaient être décidées concernant le vélo, certaines décisions qui devaient être prises, et en fait elles ont toutes été votées oui.
D'accord.
Sauf l'indemnité kilométrique trajet
pourtant...
domicile travail pour le vélo.
Quel dommage,
n'est-ce pas? Oui. Alors j'ai pas vu les retours de l'étude du projet de loi, c'est au sein du projet de loi sur la transition énergétique. Moi ce que j'en ai compris, c'est que l'indemnisation était toujours dans le cadre, c'était beaucoup plus structuré que ça ne l'était par le passé, mais par contre c'est le côté obligatoire qui n'avait pas été retenu.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de prise en charge.
D'accord, donc j'avais bien les mêmes niveau d'information que toi.
Était question à une époque que ce soit obligatoire.
D'accord, okay.
Voilà, là c'est plus le cas du tout, c'est le patron qui le fait sur ses deniers propres.
Non, il y a un certain niveau d'indemnisation pour la société, mais il n'y a pas d'obligation de le mettre en place.
C'est ça.
Voilà. Et voilà, c'était tout pour ces rétropédalages. Place aux news. Donc maintenant les news. Alors je vais commencer par vous parler d'une ville sans voiture. Ça vous paraît une utopie ? Et bien pourtant en Espagne, dans la ville de Pontevedra, c'est maintenant une réalité. Donc depuis son élection en 99, le maire a entrepris une politique de réappropriation de la ville aux piétons. Ça a commencé par interdire la traversée du centre et par limiter la circulation. Et aujourd'hui, l'accès est strictement contrôlé, notamment pour les commerçants avec des durées de stationnement très limitées et des amendes qui s'élèvent à 200 euros, donc qui sont excessivement dissuasives. Donc le résultat, c'est une baisse de la circulation de 90% et baisse de la pollution de 60%. Et vous allez me dire, les commerçants doivent faire la tête. Pas du tout. Et d'ailleurs, visiblement, les habitants sont satisfaits puisque le maire, depuis 99, a été quand même toujours en place et a été réélu 3 fois. Alors, je vous entends
déjà, mais
Pontevedra, c'est une petite ville, c'est pas faisable ici. Alors, pour info, Pontevedra, c'est 83 000 habitants. Donc, pour vous donner des équivalences, c'est Pau, La Rochelle ou quasiment Avignon. Et donc, je parle pas d'un nombre de villes de banlieue parisienne qui compte autant d'habitants, où là il y a la proximité de Paris qui complique un peu la chose. Mais bon, voilà, à quand une initiative identique en France ?
Grincheux, président, grincheux.
Oui, on verra ça plus tard.
Alors ce soir, j'ai envie de parler du tour du monde contre la sclérose en plaques. Vous en avez entendu parler ou pas ?
Non, mais
pas
noble
du tout,
geste.
Mais bientôt je pense que oui.
Je suis étonné, je pensais que vous en auriez entendu parler parce que ce n'est pas le premier. Donc je suis tombé dessus via une vidéo où le petit commentaire de la vidéo, c'était « Après plus de 2000 km de Lille à Prague, en passant par la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la République tchèque, l'équipe du MS World Tour partage un premier résumé de son tour du monde en vélo. » Donc on mettra le lien bien sûr sur notre site. Et il s'agit d'une association qui s'appelle l'Odyssée de l'Espoir, qui est constituée de personnes atteintes de sclérose en plaques et des personnes qui veulent soutenir celles qui sont atteintes de la sclérose en plaques. Ils ont déjà organisé plusieurs choses de 2001 à 2002 avec un tour du monde à vélo des associations, 50 associations sur 5 continents. Et l'objectif de l'association, c'est de sensibiliser sur la maladie le grand public. Voilà.
D'accord. Ok, bah, moi je vais enchaîner avec une news qui commence pas très drôle, parce que ça commence avec la mort d'un cycliste. En effet, en septembre de 2003 à Cognac, Christian Brault trouvait la mort dans son trajet vélo-taf quotidien, fauché par la remorque d'une camionnette. Et depuis, sa fille se bataille pour que cette route soit aménagée pour sécuriser les cyclistes. S'agissant d'une route départementale tombant sous trois juridictions, le Conseil Général, le Grand Cognac et la ville, c'était pas chose aisée, mais je voulais aujourd'hui signaler et signifier que bah, elle avait réussi à obtenir gain de cause et que les travaux ont été actés et devraient être réalisés d'ici 2016. Donc bravo à elle, parce que c'est un geste très, bravo, très courageux dans ce moment-là. Et puis bah, c'est une très bonne chose que des aménagements pour rendre plus sûrs les trajets et les carrefours un peu dangereux soient faits.
Bel exemple.
Alors, on va enchaîner un petit peu mieux. Donc, un peu plus sympa. Pendant longtemps, on a considéré que la part de femmes à vélo était un indicateur d'une ville cyclable.
Parfaitement.
Mais, sauf qu'aujourd'hui, dans des villes comme Copenhague, qui ont développé le vélo en exemple, bah, ce n'est plus un indicateur représentatif, et le vrai indicateur de ville cyclable ne se déporte non plus sur la part de femmes, mais les enfants qui circulent en toute quiétude à vélo à travers la ville. Et donc, pour reprendre une phrase du billet que je vais vous mettre dans le billet du blog, quand les enfants sont suffisamment en confiance pour rouler par eux-mêmes et que les parents les laissent faire, alors votre ville mérite vraiment d'être considérée comme cycle amical.
Ça se tient, effectivement, ouais.
Une autre news qui m'a tapé dans l'œil, ça contient un vélo cargo, alors je ne sais pas si Grincheux tu es tombé dessus. Il s'agit de filles, enfin de femmes, bibliothécaires, qui font un tour en cargo.
Non, jaune. Oh, c'était le tour des bibliothèques cet été.
Qui s'est terminé à Lyon, c'est
ça ? Non, pas vraiment.
Non ?
Enfin, c'est pas ça dont je veux parler. Donc, il s'agit d'un projet qui s'appelle Flow, comme le flow. Il s'agit de deux femmes qui transportent des bouquins pour sensibiliser les gens qu'elles rencontrent au féminisme, tout simplement.
D'accord.
Et donc, la bibliothèque, il y a des essais, il y a aussi des romans. Et l'idée, c'est de rencontrer et de transmettre. Voilà. Donc, j'ai pas encore bien étudié question sur quel était leur trajet, mais en tout cas je suis tombé sur un article du Los Angeles Times, donc plutôt aux États-Unis dans ce coin-là. Je vous ferai un rétro-pédalage sur la question plus
d'accord,
tard.
Avec plaisir.
Avec plaisir. Alors, je m'étais dit que j'allais essayer de pas vous parler pour une fois de vélo cargo dans cet épisode.
Oh, miracle !
Mais bon, c'est pas ma faute, c'est l'actualité m'a rattrapé. Donc, sur France 3 Alsace, il y a eu un reportage sur les vélos cargo qui gagnent du terrain.
Le mec, pour parler du vélo cargo, il va quand même racler chez France 3 Alsace, t'as remarqué, hein ?
Oui, alors qu'il n'a pas la télé.
Ouais, c'est ça, c'est passé partout sur le net, je pouvais pas ne pas en parler dans l'épisode. Hein. Donc, il y a eu un reportage sur les vélos cargo qui gagnent du terrain, et il mettait en exemple une école maternelle de la ville de Célestat qui utilise depuis cette rentrée des triporteurs pour rallier l'école à la cantine scolaire à la place des bus qui étaient précédemment utilisés.
Très exactement, c'est des backfit triporteurs, j'ai vu la photo.
Oui.
Ouais.
Après donc 5 semaines de retour, il y a un bilan très positif puisque en plus de l'enthousiasme des bambins, cela permet de réduire le temps de trajet car le bus ne pouvait pas stationner au plus près, le temps de faire avancer des groupes de petits avec toute la sécurisation que ça implique, c'était très très long, donc nettement plus agréable et plus confortable. Donc chapeau bas à l'équipe de cette école pour avoir fait accepter aussi un tel projet, parce que je sais aussi que les esprits chagrins considèrent facilement le vélo comme un moyen de transport dangereux pour leurs enfants.
Hein, le vélo c'est dangereux. Non, c'est voilà. Risqué.
Voilà, on est du même avis, mais malheureusement c'est le faire accepter au plus grand nombre n'est pas chose aisée, et avoir fait accepter ce projet là à l'école et avoir réussi à le faire accepter auprès des parents, c'est une très belle réussite.
C'est même badass.
Et alors, je vais maintenant vous parler de la Société des Transports d'Île-de-France, donc le STIF, ou la STIF, petit acronyme que beaucoup de franciliens connaissent, puisque c'est marqué sur leur ticket de métro et leur carte de transport. Donc, la STIF et un certain nombre d'autres organismes aux acronymes que je ne connais pas tous ont mené une campagne entre 2009 et 2011 sur les transports en Île-de-France auprès de 18 000 ménages, soit près de 43 000 personnes. Il en ressort qu'entre 2001 et 2011, le nombre de déplacements effectués à vélo a plus que doublé, et à Paris, près de 30% des déplacements à vélo le sont avec un Vélib, ce qui montre bien que l'arrivée de ce genre de service a favorisé l'usage du vélo en ville. Et ce n'est pas que pour le loisir. En semaine, 47% des déplacements à vélo le sont pour des trajets de vélo-taf ou vélo-études, donc des trajets utilitaires.
Petit scoop à confirmer. Mais a priori, d'après les chiffres bruts qui ont été donnés par la mairie de Lyon, on est passé depuis 2008 jusqu'à cette année, on a augmenté la fréquentation du vélo sur Lyon de 300% sur le Grand Lyon.
Depuis 2008 ?
Depuis 2008.
Super !
Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à 6% sur Lyon.
6% de quoi ?
6% de part modale du vélo. Ah. Sur le Grand Lyon.
Sur quel transport ?
Le vélo.
Non, je veux dire...
Sur tous les transports confondus.
Tous les transports...
Les 6% des déplacements se font à vélo.
6% voilà.
Que ce soit travail, heure de la journée, etc.
Tout, voilà.
Excuse-moi de donner des précisions quand tu balances un chiffre style, voilà. 6%. Alors, tiens à préciser aussi quelque chose, c'est qu'en ce moment, Proculus a sur le nez ses lunettes.
C'est faux. Et qu'on se retient de ne pas exploser de rire en permanence.
Chaque fois que je le regarde, je rigole.
Non, je suis arrivé tout à l'heure et puis ils ont tous les deux éclaté de rire en me voyant avec mes lunettes, donc du coup, je les ai gardées, je me suis dit que ça allait les faire rire.
Ce sont des lunettes de vélo avec...
J'allais dire des lunettes de Playmobil.
Allah va là-haut.
C'est ça, voilà, des lunettes de Raymond en fait.
C'est ça.
Qu'il a customisé lui-même avec soin et amour, on le sait.
Bah, c'est chouette le bleu et le vert fluo.
Ça pique un peu.
Léger, mais au moins il voit bien la nuit.
Voilà ce que j'allais dire, au moins t'as plus besoin de faire avec ça.
C'est ça.
Tu veux commenter toi aussi ?
Sur le look, non, je préfère pas commenter. On va rester habillé.
Merci. Voilà. Donc tout ça, je vous disais, alors je reviens dessus. Donc 6% des déplacements à Lyon maintenant se font à vélo. Ça, c'est sur le Grand Lyon, c'est-à-dire sur l'agglomération totale. Il faut savoir que sur Lyon et Villeurbanne même, c'est encore plus haut. Donc on a beaucoup gagné en 8 ans.
Et juste pour moi qui suis un peu un profane, à titre de comparaison, je sais pas sur Paris, ça représente combien ? Moi, je suis parisien, je suis désolé.
Je sais pas. Faut demander aux Parisiens.
Ok. Il va falloir que tu fasses des recherches.
Disons qu'en fait, je rencontre souvent l'un des ingés de la voirie du Grand Lyon, mais ceux de Paris, je les rencontre pas. Alors, très honnêtement, je connais pas la part modale.
J'ai peut-être ta réponse, mais c'est le PDF.
La réponse en fin d'épisode.
Voilà, réponse en fin d'épisode.
Une autre news, le vélo, il y a un nouveau vélo pliant qui est sorti tout récemment, le Sada Bike. L'inventeur, c'est Gianluca Sada.
Is Sada.
Alors,
c'est toujours mieux que Sado
aussi.
Au lieu de vous moquer, écoutez un peu.
Non, pardon, excuse-nous, vas-y.
Il a imaginé un vélo. En fait, il a d'abord réfléchi à la mobilité urbaine individuelle, déjà. Et il a imaginé un vélo pliant qui, quand il est plié, fait la taille d'un parapluie.
Ah oui.
Sans les roues.
Oui, sans les roues, oui.
D'accord, ok.
Évidemment, c'était un peu plus dur à faire avec les roues. Donc, vélo pliant le plus petit possible, confort de conduite d'un modèle de taille normale. Les roues sont des roues de 26 pouces.
Ah ouais, quand même.
Oui, qu'on enlève, par contre elles n'ont
là,
pas de...
Là, il y a Vincent qui vient de hausser violemment les sourcils, il s'y attendait pas. Et comment ?
Parce que la taille, ça compte pour les roues.
Pour les roues, oui.
Et les roues n'ont pas de rayons, l'intérêt étant de pouvoir les mettre sur son épaule pour les trimballer.
Alors là, il faudra que tu nous mettes le lien sur
En fait, c'est des roues des roues périmétriques. Donc t'as pas une fourche qui prend sur un moyeu, ça se fixe au niveau de la jante.
D'accord, ouais, faudra que je vois. Ok.
Non mais j'essaye de te montrer une image.
Non mais enchaîne. Je verrai tout à l'heure, je regarderai.
Mais voilà, donc je retrouve ma news.
D'accord.
Donc le prototype est breveté, il a déjà des nombreux prix et le vélo se plie d'un seul mouvement. Ça, je trouve ça assez intéressant, d'un seul geste. On vous mettra le lien sur notre superbe site cyclocast.fr et il y a des vidéos.
Alors, à Seattle, donc ville américaine hautement cyclable, la compagnie de VTC, donc pas les vélos tout chemin, mais les véhicules de tourisme avec chauffeur, Uber, propose... Pourquoi j'ai un son bizarre ? La compagnie Uber propose désormais de ramener votre vélo pour $5. Alors, j'ai pas vu tous les détails, mais je suppose que c'est en plus de la course, mais l'intérêt, c'est qu'en cas de crevaison, pas réparable ou toute autre galère, eh bien, c'est bien plus pratique que de devoir laisser son son vélo sur le bord de la route ou de rentrer à pied sur des dizaines de kilomètres en poussant son vélo.
Attends, donc c'est-à-dire que maintenant ils te font payer 5$ en plus et tu as le droit de mettre le vélo dans la bagnole.
Non, ils ont des porte-vélo.
Ouais, tu as le droit de prendre le vélo avec toi. Ça veut dire que maintenant, jusqu'à présent, c'est-à-dire que si tu les appelais et que tu leur disais ouais, il faudrait que vous veniez me chercher, j'ai crevé avec mon vélo, ton vélo il restait sur le bord de la route, tu pouvais pas le prendre comme bagage.
Exactement comme quand t'appelles un copain et que tu dis j'ai crevé sur le bord de la route et qu'il laisse ton vélo.
Je sais pas, moi quand j'avais des copains qui m'appelaient, non, je mettais toujours le vélo dans le coffre quoi.
Oui, mais parce que tes copains ils t'appelaient parce qu'ils étaient en galère avec leur vélo.
Parce que c'était tes copains. Là c'est des gens que tu payes qui te rendent un service, c'est leur voiture.
Non, enfin je sais pas, ça serait une grosse valise, tu l'appellerais, tu dirais ouais j'ai une grosse valise avec moi, ils te feraient pas payer en plus pour la grosse valise.
Alors excuse-moi, mais niveau forme la valise n'a pas la même taille, niveau crasse la valise ne traîne pas dehors, tu frottes pas ta valise par terre telle les roues de ton vélo.
Tu n'as pas de chaîne grasse sur une valise, tu n'as pas des roues potentiellement détrempées, pleines de boue, et surtout
et ta valise n'est pas en acier.
Un coffre de voiture n'est pas forcément la forme la plus adaptée pour mettre un vélo, si ça, alors que sur un porte-vélo et c'est un service qu'ils proposent, et moi je trouve que ça...
Bon, c'est bien qu'ils le proposent, on est bien d'accord. Bon, voilà.
Voilà, c'était ce que je voulais signaler. Alors, j'ai une news dont j'aurais dû vous parler le mois dernier, mais je ne sais pas pourquoi j'ai complètement zappé. Donc, lors de l'Eurobike, qui s'est tenu donc fin août, la société de transport néerlandaise, donc DHL, a annoncé avoir déjà remplacé 10% de sa flotte de véhicules par des vélos, entre autres des bullitt électrifiés, pour les livraisons du dernier kilomètre, et qu'ils allaient continuer à réduire leur flotte de voitures au profit de vélos. Sachant que ce changement leur a déjà fait économiser 152 tonnes d'émissions CO2 et 430 000 euros par an.
Classe.
Donc ils font ça pour l'argent.
Bah c'est d'abord c'est une entreprise qui a besoin de vivre, donc ils font ça pour l'argent, ils font ça pour l'image aussi.
Et puis je présume qu'ils doivent gagner du temps aussi, hein, parce que
donc de l'argent quand il s'agit de faire des livraisons
en centre-ville, ouais. Logistique du dernier kilomètre.
Voilà.
C'est pas vraiment une news, c'est un accessoire que j'avais repéré et que je trouvais rigolo. Mmh,
tu sais que j'adore les accessoires.
Peut-être que vous connaissez
c'est,
déjà.
C'est à peu près du bon sens ce que je viens de dire. C'était, bref, vas-y, continue.
Surtout avec tes lunettes de pervers, là. J'avoue que c'est un petit peu inquiétant.
Vert, oui, père, non.
Parce qu'il a... Donc les fameuses lunettes ont des verres qui ne sont pas transparents. Ils sont fumés, bah, comme des lunettes de soleil, si vous voulez. Donc du coup, c'est... Bref.
Et en fait, je suis juste en face de toi. Donc,
ça donne un regard impressionnant. Il s'agit tout bêtement d'un éclairage magnétique. Peut-être que vous allez me dire que vous connaissiez depuis longtemps. C'est tout petit, c'est un éclairage à LED. Et comme c'est magnétique, vous pouvez le fixer sur le cadre. C'est aimanté, donc
d'accord.
Ça se pose sur le cadre de votre vélo. Et je trouve ça plutôt sympa.
C'est-à-dire c'est magnétique, mais la source d'énergie, c'est quoi? Je retire les lunettes pour pas que ça te perturbe. Voilà, hop.
La source d'énergie, c'est à pile.
Ah d'accord.
C'est magnétique parce que ça se fixe magnétiquement. C'est-à-dire au lieu d'accord. de le mettre autour du tube...
C'est un magnète lumineux, quoi.
C'est ça.
D'accord.
Okay. Au lieu de fixer autour du tube par un élastique comme ce qu'on peut avoir.
Et si on a comme 90% des vélos actuels un vélo en alu.
La question ne se pose pas.
Dans l'alu, Lulu. Et ça ne. Et moi, l'autre question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est est-ce que ça n'a pas tendance à tourner autour de la potence, par exemple?
Je pense que non. Clément est assez fort. Ça coûte 30,43 € précisément, puisque je l'ai trouvé en vente sur un site américain. Donc, si tu veux t'en commander un pour essayer, vas-y.
Bah non, j'ai une potence en alu. j'ai déjà un éclairage sur mon vélo.
Surtout déjà un éclairage. Écoute, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça mais non, chouette. Je voulais vous en parler.
Non, t'as raison. Ça peut
paraît
être intéressant.
Un peu innovant. Voilà.
Ouais. Et puis ça peut être cool surtout pour les vieux vélos, les vélos old school que les étudiants retapent. Ils ont souvent pas de lumière dessus.
Ouais,
et c'est des
discret.
Vélos en acier, donc c'est discret, ça passe bien. Quoi.
Oui. Alors je vais terminer avec une actualité lyonnaise. Donc le pont de la Mulatière, donc cheval de bataille de l'association Valve, qui est un axe majeur d'accès à Lyon, est également un axe très dangereux, ou à minima anxiogène, parce que ce n'est ni plus ni moins que l'autoroute A7.
Pour les deux voies centrales.
Ah, en fait... Pas tout à fait. Juste avant le pont, t'as un panneau fin d'autoroute. Juste après le pont, t'as un panneau début d'autoroute.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Et les deux voies de gauche sont limitées à 70 et la voie de droite est limitée à 50.
C'est ça.
Pour qu'on puisse y circuler à vélo puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de passer la Saône à cet endroit-là. Donc, circuler quand même sur un ski.
On a Vincent,
beaucoup
on a Vincent,
de,
on vient de voir un
beaucoup
de CCOC.
Je l'ai encore fait ce midi.
Tu l'as encore fait ce midi?
Oui.
Mais à 50 à l'heure?
Ouais. Entre 35 et 40.
Ah, attends, il dépasse pas les 50, il a pas envie de se faire flasher.
Tu prends pas la file de gauche, toi?
Bah non, je sors tout de suite. Donc, il n'empêche donc...
Oui, parce que je me permets de t'interrompre, Grinchot et Vincent se connaissent de longue date, donc...
Oui, on en parlera.
Et d'un passé motorisé.
Donc bon, voilà, il n'empêche que quand on circule là à vélo, même si on est dans son bon droit, même si on pédale à bon rythme à 35 et que on est malgré tout bouchonné par les voitures, parce que souvent à cet endroit il y a des ralentissements, eh ben on vous fait bien comprendre que vous n'avez pas à être là à vélo. Mais où doit-on être? Parce que le problème il est là. Alors il y a une vague, il y a des pictos de pistes cyclables sur le trottoir, mais le trottoir faisant moins d'un mètre de large.
Non, en fait tu as sur la voie sur la le trottoir est, tu as une piste provisoire, oui. Mais oui, c'est en attendant de faire la passerelle d'un encorbellement, c'est ce que
voilà.
Tu as vu.
Non, c'est pas ça dont je vais parler exactement. Donc le problème qui va bientôt s'améliorer, parce que d'ici la fin du mois, donc des travaux vont commencer, et d'abord pour aménager la liaison qui est totalement absente actuellement entre la passerelle Raymond Barre qui permet de passer le Rhône quelques centaines de mètres plus loin, et cette fin de pont, il y a c'est actuellement un no man's land total. Donc il y a des travaux qui vont démarrer pour d'abord faire les aménagements de ce quartier-là qui ne sont pas finis.
Donc la news, c'est qu'il y a des travaux dans ce coin-là.
Il y a des travaux, non, c'est que les travaux de création de la passerelle ont été votés, validés, même si c'était entre guillemets acté, ça n'avait pas encore été voté. Et là, cette fois-ci, ça a été réellement voté. Donc d'ici mars 2015, un aménagement du trottoir à Mont, offrira donc une piste cyclable séparée de l'espace piéton. Et bah, par contre, il va encore rester l'aménagement de l'autre trottoir. Mais parce que
à la base, ils voulaient faire une passerelle en encorbellement, c'est-à-dire
oui. Fixer. Ça, c'est le côté sud.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et donc, en attendant la passerelle, il va y avoir une piste cyclable sur l'autre côté. Voilà. Donc, c'était tout pour les news ce soir. Non, il te reste une news, Mogor?
Excuse-moi.
Ah bah, tu me disais qu'il fallait que j'enchaîne les news les unes après les autres parce que...
Je te disais que la news sur Lyon et cette passerelle n'intéressait peut-être pas tout le monde.
Non.
Bon.
Donc j'étais en train de faire des grands moulinets avec le bras. Différent.
Mon langage des signes.
Qu'on a tous les deux interprété comme non, j'ai encore une news.
Très bien, mon langage des signes n'est pas encore au point, mais j'ai encore une news.
Eh bien, allons-y.
Ce soir, j'ai envie de parler du poulet bicyclette. C'est pas une news dans le sens où c'est pas...
Poulet bicyclette, mais quoi c'est donc?
Ça n'est pas temporel dans le temps. Le poulet bicyclette...
Quoi? Temporel dans le temps? C'est quoi ça? Attends, là, ça m'interloque tellement que je remets mes lunettes.
Oh non, ne fais pas ça.
Moi aussi.
Je ne peux pas parler normalement. Donc...
Alors, quelqu'un qui nous parle de poulet bicyclette hein, et parler normalement, là, je...
Chicken Bikes, elle va nous parler des jolies photos qu'on trouve sur Facebook. Pardon, excuse-moi.
Je ne sais pas de quoi tu parles.
Non, je suis
l'idée de parler de poulet bicyclette m'est venue quand on a parlé la dernière fois de recettes à bicyclette, les filles qui faisaient un tour pour récolter des recettes, leur tour était en vélo. Le poulet bicyclette, c'est une réelle recette de cuisine. Je peux vous lire les ingrédients. Je vous laisserai chercher comment on les assemble. Donc, pour 4 personnes, il faut un poulet bicyclette, 2 oignons, 3 gousses d'ail, une demi-cuillère à café de poudre de gingembre, 2 feuilles de laurier, des légumes, carottes, navets, 2 pommes de terre, une noix de beurre, 2 cuillères à soupe de vinaigre, du sel et du poivre. C'est une recette qui est connue dans plusieurs pays d'Afrique.
Rien à voir avec le cheval Melba.
Petite référence à Pierre Desproges, voilà. C'est bon, on enchaîne.
Et pourquoi ça s'appelle un poulet bicyclette?
Ben oui, on attend.
Me direz-vous? Donc, un poulet traditionnel sort du poulailler le matin tôt, court toute la journée comme une bicyclette, et au crépuscule, il retourne dans son poulailler. Au Sénégal, il est courant de voir des poulets aller librement de, pas de poulailler en poulailler, mais de cours
dans
de
la
poulailler.
Rue, voilà.
Et pourquoi on les appelle poulets bicyclettes? En raison de leur démarche rapide et saccadée.
Comme s'ils pédalaient, en fait.
Exactement.
D'accord, ok, d'où le poulet bicyclette. Okay.
Et le poulet bicyclette est apprécié parce que sa viande est plus goûteuse et savoureuse puisqu'il a couru.
Voilà, le poulet en plein air. Manger des bons poulets en batterie avec des os mous, bonne idée.
Donc voilà, donc dans plusieurs pays d'Afrique, on appelle ça le poulet bicyclette, et si vous ne connaissiez pas, c'est l'occasion.
Effectivement, je me coucherai moins bête ce soir. Merci, Mogor.
Merci.
Donc ce soir, nous avons Vincent qui est venu de loin, qui était de passage à Lyon et on l'a alpagué en lui disant oui viens avec nous pour le podcast.
D'abord on le remercie d'être venu nous voir.
Tout à fait.
Merci Vincent.
Je vais lui prêter mon micro.
Bah de rien, vraiment de rien.
Je vais lui prêter mon micro parce que on a quelques questions à lui poser et je pense que c'est Proc, tu vas t'en charger.
Oui bah écoute, pourquoi pas, hein, j'ai Grincheux qui m'a dit j'ai un copain qui passe, ça serait bien qu'on pose quelques questions, etc. Donc voilà, j'ai quelques questions pour toi, Vincent, par rapport à ton métier. Est-ce que tu pourrais déjà nous dire ce que tu fais dans la vie ?
Voilà, ce que j'allais dire, commencer par te présenter. Voilà.
Eh ben, je m'appelle Vincent, je viens de la région parisienne et je fais le métier de journaliste automobile.
Ah
ouais, je sais, c'est pas bien, je suis le suppôt de Satan.
Non, il n'y a pas de saut métier, écoute, c'est très bien.
C'était encore pire.
Non, mais moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça va nous permettre d'avoir un petit peu, un éclairage différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre parce que à force de parler de vélo, discuter de vélo, faire du vélo, on en vient à être un petit peu enfermé dans certaines conceptions, peut-être pouvoir te...
Ah mais j'avoue, là, je découvre un univers entre le poulet bicyclette et les références de dérailleur, combien tu disais, 200 références de tiges de dérailleur,
de pattes de dérailleur, oui.
Voilà, de pattes de dérailleur. Là, je découvre vraiment un univers fascinant, hein, mais j'imagine que ça serait pareil dans le sens inverse si je vous racontais les arbres à cames et les soupapes.
Voilà. Tu verrais mon atelier, tu prendrais ça pour un donjon SM, mais
pire. j'ai visité la cave de l'hydre de Douai. Putain. J'ai arrêté de compter le nombre de vélos qu'il y avait.
Ah bah, c'est facile, là, aujourd'hui, il en a rajouté 21, c'est ça ?
Oui, non, ouais. Hier, mais oui.
Voilà, c'est ça.
Alors, par contre, pour les pattes de derrière, je vais recharger le site. C'est pas 200, c'est 400.
400. Autant pour moi.
Tu peux avoir plusieurs coloris en plus, c'est cool ça.
On achète.
Alors, on te montrera après, oui, Vincent, oui, tu verras.
Regardez le meilleur pour la fin.
Donc, tu es journaliste automobile. Déjà, alors, la première question qui me vient, c'est sur quoi ou en quoi roules-tu ? Est-ce que tu fais du vélo ? Est-ce que tu fais de la voiture ? Est-ce que tu fais des deux ?
Je fais des deux.
D'accord.
Évidemment, je fais essentiellement de l'auto. Ouais. Ne serait-ce que par mon métier, parce que je suis amené à essayer des nouveaux modèles, etc.
Logique.
Et puis, en fait, moi, le vélo dans ma pratique, j'ai un vélo, j'ai un VTT, en fait, un Specialized que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. Et en fait c'est vraiment, pour moi c'est vraiment c'est pas du tout un outil de déplacement, c'est vraiment un outil de loisir. Je fais des balades avec, des balades au parc de Saint-Cloud, au parc du château de Versailles, quand je fais 25 km dans la journée, j'ai l'impression d'être contador déjà, donc je suis vraiment un poireau, hein, par rapport à vous tous là autour de cette table.
Je te rassure, on côtoie des personnes qui pour qui 10 km c'est le bout du monde et en ville, hein, donc c'est du plat.
Même nous, il n'y a pas si longtemps que ça, faire 20 km, c'était
un exploit.
L'exploit de la journée. Enfin, ouais.
Ça va, vous me rassurez alors.
Ouais, après, ouais, ça monte vite, hein. Ça monte très vite. S'y attend pas. Ok, très très bien.
Alors moi, j'avais, pour lancer un peu la discussion, j'avais la question à te poser. Donc, toi, comment perçois-tu, principalement en ville, parce que c'est le plus le cœur du podcast, comment perçois-tu les cyclistes, qui t'entourent et les...
J'ai le droit d'être méchant.
T'as le droit d'être franc, parce que nous aussi, on a beaucoup de remarques très désagréable à faire à l'encontre d'un grand nombre de cyclistes.
T'as le droit de donner deux réponses, voilà. La politiquement correcte et l'autre.
Voilà.
Non, je vais parler franchement. Il m'arrive quand même de faire du vélo en ville, notamment, voilà, ça m'arrive d'emprunter un Vélib, on en parlait tout à l'heure, effectivement pour des déplacements plus utilitaires. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux perceptions, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui prennent jamais un vélo. Il y a probablement beaucoup de cyclistes qui prennent très rarement une voiture aussi. Et forcément, enfin, je vois bien quand Cinti m'arrive de faire du vélo, je peste contre les gens qui vous doublent à 50 cm, alors que s'ils auraient largement la place de laisser 1 mètre ou 1,50 m, ça m'agace. Et je sais que moi, quand je suis en voiture, que je double un vélo, je laisse un peu de place quand même, parce que je me mets à sa place, puisque il m'arrive de faire du vélo aussi. Donc je pense que voilà, il est vrai que c'est pendant très longtemps, le vélo avait disparu des rues des villes, donc on avait un peu perdu l'habitude d'en voir, et puis ils reviennent. Donc je pense qu'il faut que tout le monde retrouve un petit peu tout le monde se pousse un peu. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, hein. Faut juste qu'on apprenne à cohabiter. Et je pense que ça doit partir d'un respect mutuel. À commencer par le respect du code de la route. Moi, ça m'agace quand je vois un cycliste qui grille un feu rouge. Ça m'agace prodigieusement. Même si techniquement, il n'y a pas forcément de danger. Je le vois bien, mais sur le principe, ça m'agace prodigieusement.
Et on est deux ici à pouvoir te dire que, on a beau ne pas être dans une voiture avec quatre roues et un volant entre les mains. Parfois, on partage la même chose, le même sentiment.
Bah oui, j'imagine voilà. Bien, oui. Ouais. Donc non, je pense que voilà, il faut partager la route, quoi. C'est pas compliqué. On va forcément y arriver. C'est pas la peine de faire une guerre contre les voitures ou une guerre contre les vélos. Il y a un moment où il faudra qu'on apprenne à cohabiter, c'est tout.
Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde.
Voilà, on est exactement sur la même longueur d'onde.
Proc, tu avais d'autres...
J'allais te demander comment tu vois la cohabitation entre les divers modes de déplacement, mais ça, je pense que tu y as déjà répondu. Selon toi, quelles seraient les choses qui pourraient permettre de faire évoluer les mentalités, comment faire évoluer la circulation du point de vue automobile ou du point de vue cycliste? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Qu'est-ce qu'il faudrait
Je pense que déjà, il faudrait qu'on réaménage correctement les routes, qu'on ait des vraies pistes cyclables bien aménagées, qu'ils soient bien séparées du trafic automobile, parce qu'il n'y a rien à faire, les voitures n'ont pas la même vitesse que les vélos, elles n'accélèrent pas de la même manière, donc c'est des flux qui se déplacent différemment. Donc quand je vois à Paris où la mairie dessine un vélo dans une voie de bus et puis décrète que ça c'est maintenant une piste cyclable, moi je trouve que c'est n'importe quoi. Et souvent les chauffeurs de bus, et il vous va vraiment, enfin on voit bien que ça, quand on est à vélo et qu'on est sur leur voie, ça leur casse les pieds, quoi. Et combien de fois j'ai failli me faire tailler un short par un chauffeur de bus, alors que bon, voilà, j'étais sur une voie de bus où il y avait un beau logo ce vélo dessiné dessus. Bon voilà, je pense que si on sépare vraiment les flux, et il y a possibilité, je veux dire, quand on voit la largeur de certains boulevards, les trottoirs qui sont très très larges, on peut gratter 1m50 sur un trottoir pour mettre une vraie piste cyclable bien faite, bien délimitée. Après, il faut aussi que les piétons apprennent aussi à repérer les pistes cyclables et à les respecter, mais ça c'est des choses qui vont venir aussi avec le temps. Parce que c'est sûr que quand on se promène à vélo à Copenhague, il n'y a pas de problème, quoi. Tout le monde sait où se trouve sa place, parce que ça fait 20 ans qu'ils font du vélo et voilà. Bon, à Paris c'est beaucoup plus récent, donc faut que ça vienne, c'est des choses qui vont venir dans le temps.
Sur Lyon c'est encore pire. J'ai un souvenir de il y a 20 ans de ça quasiment à Amsterdam, où je me suis fait traiter de tous les noms parce que j'ai marché sur la piste cyclable et j'ai pas du tout fait attention que c'était à cet endroit-là, c'était une piste cyclable, et là bien entendu c'était en néerlandais, donc je n'ai pas compris le moindre mot de ce qu'on m'a dit.
Ça vaut pas mieux.
J'ai bien compris la teneur malgré tout.
Et ce qui est drôle, même quand on est touriste à vélo dans ces villes-là, c'est que on se rend compte que dans les pistes cyclables, ils roulent comme des barges, mais à fond tout le temps, quoi. Et limite, ils font peur, quoi. C'est une autoroute, en fait, la piste cyclable pour dans des villes comme Copenhague ou Amsterdam. Enfin, moi, je suis un poireau à vélo, hein, donc pour oui, moi, voilà.
J'avais vu il y a pas si longtemps que ça une vidéo en timelapse sur un feu à Utrecht, donc à proximité d'Amsterdam. T'as un flot de vélos, mais qui ne respectent pas tous le feu, d'ailleurs. Beaucoup le passent. Et certains qui roulent, oui, en effet, très vite. Et ça fait une marée de vélos. C'est des bouchons à vélo, quoi.
Pour élargir les pistes cyclables, en fait.
Oui, voilà.
Oui, c'est ça.
À faire des vraies autoroutes avec plusieurs fils et tout.
Pour rigoler, en fait, on disait, le jour où il y a plus de vélos que de voitures, les vélos passent sur la voie de voiture et puis les voitures passent sur la voie vélo. Tu vois.
Ça arrive des jours où il y a moins de voitures?
Ouais, ça dépend, hein.
Oui, moi j'ai vu ça un peu à Paris quand il y avait des grèves. En fait, il y avait pas mal de voitures, mais il y avait surtout plus aucun bus qui circulait parce qu'il y avait des grèves terribles de RATP. Et donc du coup, on avait vraiment toutes les voies de bus habituelles, les fameuses très larges, qui étaient vides. J'ai une question.
Oui.
Je sais pas si vous avez encore beaucoup de questions.
Non.
Mais tu n'as pas tout à fait répondu. Qu'est-ce que tu penses du fait que les voitures, on passe un permis pour les conduire et c'est pas du tout le cas des vélos? Donc du coup, est-ce que par rapport au code de la route, typiquement... t'es pas tenu d'avoir un permis vélo pour prendre ton vélo. T'es tenu de respecter le code quand même, mais est-ce que tu penses qu'il faudrait un permis de vélo?
C'est vrai que c'est une bonne question, mais on devient usager de la route comme un autre. D'un autre côté, en France, on sait bien qu'on n'est pas obligé d'avoir le permis pour conduire un véhicule, puisque on peut avoir une voiturette sans permis, et ce qui me paraît totalement ahurissant, parce que c'est une voiture, même si c'est une voiture avec un petit moteur, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un permis pour conduire aussi ce genre de voiture-là, au moins un permis simplifié. Alors peut-être que c'est un permis simplifié à imaginer pour deux roues.
Il faut avoir le code là maintenant pour conduire ça, il me semble.
C'est pas le BS. C'est pas
le
billet qu'on passe
au
collège.
Ça doit être ça, voilà. Donc voilà, je crois que la réponse en fait elle est là, quoi.
Dans les mêmes aberrations, on peut conduire une moto, certes une 125, mais une moto quand même, avec un permis voiture. Ce sont deux véhicules totalement différents, de maniements totalement différents, c'est une aberration.
Et d'ailleurs, souvent les motards qui ont ce genre d'engin, on les repère assez rapidement parce qu'effectivement ils conduisent pas comme les autres motards.
Oui. Mais bon, tout ça aussi est un autre débat.
Exactement. HS.
Non, mais bon,
l'une des autres questions qui m'était venue, c'est quels sont les avantages que tu pourrais voir à la voiture ou à la voiture sur le vélo, au vélo sur la voiture en ville. Qu'est-ce qui, selon toi, paraît le plus simple, le plus adapté? Effectivement, du fait de ton métier, il semble normal que tu empruntes des voitures. Je présume que tu dois circuler avec les voitures que tu testes pour pouvoir donner des retours dessus. La question, c'est est-ce que parfois tu te dis pas je préférerais largement avoir un vélo et être sur le bord et rouler dans la bande cyclable et remonter la file où je suis englué ou l'inverse?
Très sincèrement, ça m'arrive, je crois pas que ça me soit arrivé de me poser cette question là.
D'accord.
Non, c'est vrai, j'ai une conception très loisir du vélo et typiquement, même quand ça m'arrive de prendre un Vélib, l'intérêt que j'y vois, c'est on redécouvre un peu la ville parce qu'on va un peu moins vite, on est plus à l'écoute, on entend les bruits, on sent les odeurs, on entend les gens qui discutent aux terrasses des cafés, enfin c'est une autre approche de la ville.
Les gens qui téléphonent au volant de leur voiture aussi, on les entend très bien des fois.
Oui, j'en vois même des fois qui téléphonent au guidon de leur vélo. Alors moi aussi, je sais pas comment ils font parce que moi j'ai déjà du mal tout seul, encore une fois je suis un poireau.
Disons
qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir, nous automobilistes, des nouveaux outils, notamment pour éviter le gros des bouchons. Alors ça c'est pas non plus des solutions miracles, mais des applications mobiles comme Waze par exemple, qui permettent de zigzaguer entre le gros des bouchons. Ça permet, moi dans le cadre des trajets que je fais régulièrement, ça m'arrivait parfois de passer une heure sur un trajet. J'arrive à avoir des temps de trajet plus courts, c'est pas la solution idéale. D'un côté, zigzaguer en vélo entre les voitures, je suis un poireau, je suis pas sûr que je serais très à l'aise là-dedans.
Non, mais parce que ce qui peut se passer aussi, c'est que souvent on a une bande cyclable sur le côté et on remonte, c'est une voie qui est séparée, où il y a une piste, Parce que pour ma part, j'ai le permis, j'ai eu une voiture pendant très longtemps, et si je me suis séparé de ma voiture, c'est pour des raisons économiques. Elle était cassée, j'avais pas de moyen de m'en racheter une. J'ai pu tester les deux pour aller au travail, et je sais que la voiture, plus jamais. Les seules fois où je les ai prises, c'était une punition. Pourtant, t'as remarqué, sur la table, il y a mon thermos à café. Tu as vu que j'ai un vice, je suis tabagique. La voiture, c'était une occasion pour moi de boire mon café en fumant ma cigarette et en écoutant la radio. Mais une demi-heure dans les bouchons, non, c'est juste pas possible pour moi, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai fini par privilégier le vélo. Et c'est vrai que parfois, quand je vois les gens dans les bouchons, dans les avenues, le sentiment que j'ai, c'est pas les cons ou des choses comme ça, c'est que j'ai de la peine. Je me dis, mais comment ils peuvent faire pour rester englués là-dedans?
À l'inverse, tu crois pas que les automobilistes ont de la peine quand il pleut et qu'ils te voient passer dégoulinant, trempé, et qu'ils sont avec leur toit?
C'est bien juste, c'est sans doute ça, oui, aussi, ça doit être le cas aussi.
Ou quand ils transportent des tas de trucs dans leur coffre et que toi, t'es limité à tes sacoches, par exemple.
Je me sens pas concerné, mais par contre, pour
la running gag, là, je crois.
Oui, je fais des expériences.
Pour revenir à la pluie, oui, c'est vrai que cette semaine particulièrement, on a été bien saucés avec des averses bien diluviennes. Et oui, devoir se changer de pied en cap en arrivant au boulot et devoir prévoir toute la logistique de transporter les affaires complètes en double, c'est pas la partie la plus sympa du vélo, il faut bien le reconnaître.
Il suffit d'avoir des Rainmates, moi j'ai aucun problème.
Il suffit de porter des collants.
Ce qui est tombé, je sais plus quel jour c'était, les Rainmates suffisaient pas.
Peut-être une précision parce que Vincent,
forcément a l'air un peu interloqué, il sait pas ce que c'est. Ce qu'on appelle les rainmates, en fait, ce sont des plaques de tissu étanche, des chaps, si tu veux, de cow-boy, en tissu étanche qu'on met par-dessus le pantalon. L'avantage par rapport à un pantalon de pluie, c'est que tu transpires pas dedans, et ça protège la seule partie qui est mouillée quand tu fais du vélo, c'est-à-dire le devant de la cuisse et le devant de la jambe. Voilà, et donc moi, je suis équipé de ça, et j'ai pas une seule partie, pas un centimètre carré de mon pantalon qui est mouillé. Franchement, hein, j'ai pris la même flotte que toi, j'ai eu aucun problème, Grincheux.
Est-ce que tu as des actions dans les sociétés de Rainmates?
Même pas, je te rappelle que c'est mon ex qui me les a cousues.
En plus, elles sont faites maison. Non, moi, je voulais faire une petite remarque sur Waze, dont tu as parlé, parce que j'ai eu à utiliser ma voiture récemment, et j'ai utilisé cette appli que j'ai trouvé super cute. En fait, j'aimais beaucoup les graphismes. Et la blague, c'est que quand il y a eu un bouchon, j'étais dans le bouchon, j'étais sur l'autoroute, et elle m'a annoncé qu'il y avait des bouchons.
C'est ce que je disais.
Thank you, Captain Obvious.
C'est pas non plus la formule idéale, hein. Je crois qu'elle n'existe pas. Hein. Effectivement, c'est vrai que faire du vélo, bah là par exemple, on a un beau week-end où il fait chaud, où il fait soleil. C'est vrai que là, c'est un vrai plaisir.
Mmh, tout à fait.
Effectivement, quand le vélo devient aussi, ça peut aussi devenir une contrainte quand voilà, quand il fait froid, quand il pleut, quand c'est verglacé, quand voilà.
Et c'est toujours ce jour-là où on crève en plus.
Oui.
C'est en voiture aussi. Hein. On crève, il pleut toujours.
Ah oui. Alors, je pense que d'expérience, après chacun aura sa propre expérience. Le pire, c'est pas le froid, c'est pas la pluie. Je pense que c'est vraiment le vent. Parce que la pluie, tu peux toujours trouver le moyen de t'isoler. Le froid, bah tu mets juste des fringues en plus, ça va. Mais le vent, c'est vraiment pénible parce que quand tu l'as dans le nez, tu dois pousser deux fois plus. Voilà. Enfin bon, ça c'est mon ressenti personnel. Mogor n'est pas d'accord. Droit de réponse.
Personnellement, ce que je trouve le plus désagréable, c'est quand il fait chaud, on me dit de raser ma moustache. Grincheux me fait des signes, je ne comprends pas.
Non, Grincheux, en fait, c'est ma bonnette qui a gardé des poils de ma moustache, c'est différent.
On s'échange les micros, bref.
Oui, donc avec trois micros pour ce quatre,
ce que je trouve le plus désagréable, c'est quand il fait très très chaud et qu'on sue parce que je suis obligée de rouler trop vite pour avoir de l'air et finalement j'ai encore plus chaud. Voilà. Ou le combo vent et pluie. Pluie tout seul, ça va. Vent tout seul, ça va. Mais alors pluie et vent, c'est le pire.
Moi, j'ai plus tellement de questions. Je sais pas si mes collègues ont.
Non, je n'ai pas d'autres questions particulières.
Je suis pas un sujet très passionnant. On a vite fait le tour.
Hein. Si, non, mais c'est.
C'était d'abord c'était l'occasion de te recevoir, de profiter de ta présence, pas en simple automobiliste, mais voilà, t'es une journaliste auto, donc tu côtoies le monde de l'automobile un peu plus. J'avais une dernière question malgré tout. Qu'est-ce que tu penses de cette mode qu'ont tous les constructeurs automobiles aujourd'hui de proposer des vélos?
C'est pas aujourd'hui, ça remonte déjà à pas mal d'années.
Peugeot, c'est pas une mode. Les Peugeot ont toujours fait des vélos.
Il y a Lotus,
Smart, Porsche, Mercedes. Effectivement, oui. Ils ont toujours eu des gammes d'accessoires. Donc, le vélo est considéré aussi comme un accessoire. Alors évidemment, quand c'est un vélo Porsche, il y a du carbone partout. C'est des vélos qui valent un bras et un rein, quoi. Mais voilà, c'est.
Ouais, comme les autres vélos carbone, quoi.
Ouais, sauf que là, en plus, comme c'est un Porsche, forcément, c'est plus cher. De la même manière qu'à côté de ça, ils vendent des blousons, des sacs de sport ou voilà, des choses comme ça. Il y a quand même une image assez technologique sur le vélo, parce que voilà, même si c'est foncièrement deux roues, un dérailleur, une chaîne et un guidon, après il y a des matériaux, il y a quand même une notion de rigidité dans le cadre. Il y a des choses qu'on trouve avec l'automobile, hein, ou avec la moto par ailleurs. Donc je pense que c'est aussi il y a probablement aussi une image de voilà, on promeut un style de vie en même temps qu'une voiture, donc le vélo est porteur de, voilà, d'efforts, de physique, de bonne santé, de quelqu'un qui a un style de vie dynamique, qui peut du coup rejaillir aussi sur la voiture. Si c'est une Porsche, voilà, ça, quelque part il y a un vélo en carbone Porsche, une Porsche 900 GT3, voilà, il y a un sens d'un esprit de performance, de high-tech quand même.
Le seul truc qui va me choquer, c'est quand même le porte-vélo sur la 911, mais bon.
Ouais, ils font, hein, même sur une 911 cabriolet, tu peux avoir un porte-vélo qui se fixe sur la baie de pare-brise et sur le capot moteur. C'est assez étonnant, mais les Allemands, ils font des trucs incroyables.
Ouais, ils font des forats de manufacture, par exemple. Pardon, c'est des vélos de rando en acier. Voilà. Moi, j'ai terminé, ouais.
Eh bien, merci beaucoup pour t'être prêté au jeu de répondre à nos questions sur le podcast. Et puis, bah, n'hésite pas à intervenir si tu as.
Peut-être un petit épilogue. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux cyclistes pour leur permettre de mieux cohabiter avec les automobilistes?
De survivre.
Conseil de survie à un cycliste. Oh là là, je pense que je fais pas assez de vélo pour pouvoir donner des conseils à des cyclistes, mais non, mais je pense que, enfin voilà, je pense que sur un vélo, et comme sur une moto, d'une manière générale, sur un deux roues, il faut compter que sur soi pour sa sécurité. Il faut surtout pas compter sur la prudence des autres. Mm-hmm. Donc voilà, je pense que c'est ça le truc à garder. Hein. L'automobile, il y a 30 millions d'automobiles en France, donc ça veut pas dire forcément 30 millions de bons conducteurs. Donc faut partir du principe que bon, il faut être prudent et faut compter sur soi avant tout, quoi.
D'accord, très bien. Bah merci beaucoup.
Merci.
De rien, ce fut un plaisir.
Merci, et comme disait Grincheux, si tu as des remarques sur ce qu'on raconte, n'hésite pas.
S'il y a des choses que tu comprends pas, n'hésite pas à nous arrêter, à nous demander une précision.
Non mais là je vais interrompre toutes les 3 secondes, là, ça va pas le faire.
J'imagine un petit peu l'inverse, qu'on soit dans un podcast automobile avec du jargon et qu'on comprenne rien. Du coup, j'avais envie de parler du gagnant de notre devinette d'il y a 2 épisodes.
Ah oui,
tout à fait.
Pourquoi j'ai envie de parler de lui ? Parce que figurez-vous qu'il espérait avoir gagné un Bulit, mais quand on lui a annoncé que c'était pas le cas, il s'est résigné à se procurer un Backfit. Et il nous l'a fait savoir via Twitter. Donc.
Il nous l'a fait savoir il y a quelques heures via Twitter. Et donc, bah, on te souhaite
bien du plaisir,
de longues balades.
HM, tu es un mec bien, tu as choisi l'acier. Tu as choisi l'acier plutôt que l'aluminium, c'est bien.
Je voulais aussi remercier Aude.
Geckode sur Twitter.
Qui nous a envoyé un petit message audio qu'on va vous faire écouter tout de suite.
Oui, salut, c'est Aude ou Geckode sur Twitter. Donc, c'est un message pour Mogor. Voilà, moi je viens juste que maintenant d'écouter l'épisode 4. Je ne sais pas du tout d'où est tiré, de quel livre est tiré le passage que tu as lu. Donc, c'est pas grave, je pense avoir la réponse tout de suite en écoutant l'épisode suivant. Voilà. Mais voilà, c'est, en tout cas, c'était super cool. Et puis c'était moi, la poditrice qu'on s'est rencontrée pour la première fois au meeting Cargo Bike. Voilà, c'était super cool et voilà, c'est chouette. Bon, à plus et j'écoute l'épisode 5. Ciao, ciao.
Et là, je crois que c'est moi qui vais vous parler de rouler la nuit.
D'accord.
Ça tombe bien, il fait nuit, donc on va aller rouler un peu.
Et puis dans cette saison, pour l'instant on est parti pour quelques mois, on va rouler plus souvent de nuit.
Donc là on est en octobre, au moment où on enregistre, et les jours, surtout on va changer d'heure, et donc...
Déjà à 19h, la nuit tombe bien, et donc ça sera à 18h après, ouais, sortie du travail.
Que ça soit le soir ou le matin, on peut être amené à rouler la nuit. Alors qu'est-ce qui est important quand on roule la nuit ? On vous dirait peut-être de voir là où on roule, mais en fait le plus important c'est d'être vu. C'est ça le plus important pour votre sécurité.
Il y avait eu une campagne de prévention de la sécurité routière des années 80, bien voir, bien vu, ou je sais plus, c'était quoi le... Je sais pas si ça te parle. Il y avait des autocollants sur les voitures avec bien de prévention justement pour l'éclairage.
Ça remonte au temps des BX, hein, ça.
Oui, c'est ce que j'ai dit, dans les années 80.
J'étais un peu petit à l'âge des BX. Hein.
Attends, t'as le même âge que moi.
Donc les vieux parlent entre eux, merci.
Super, moi j'ai l'âge des BX et je vous emmerde.
D'accord.
Tant que t'as pas le design d'une BX.
Je reprends donc sur rouler la nuit.
On t'écoute.
Il y a deux types d'éclairage. Ce qu'on appelle l'éclairage actif, qui sont tout ce qui est fabrique de la lumière, comme les phares. Et l'éclairage passif, tout ce qui va réfléchir la lumière.
Comme pas nous.
Comme
réfléchir, pas nous.
Oui, t'es pas une lumière, c'est sûr. Il fallait qu'on
la fasse. Comme les catadioptres.
Oui.
D'accord.
Donc,
et toutes les bandes réfléchissantes que l'on peut trouver.
En tout premier, sachez qu'en France, selon le code de la route, votre vélo doit avoir un phare avant, de couleur blanche ou jaune, un phare arrière, de couleur rouge. Oui, Vincent ?
J'ai rien du tout de ça sur mon vélo, je suis désolé.
Alors, je te dis, bravo. Tu sais que ton vélociste devait te les fournir à l'achat.
Non, pas forcément, parce que ce qu'il a acheté, c'est un VTT, donc c'est un produit de sport qui est illégal sur route.
C'est OEM, les OEM doivent y être avec, c'est obligatoire, même les VTT.
Je suis donc illégal sur route, je viens de l'apprendre.
De nuit. Alors, c'est pas tout, donc phare avant, phare arrière, un catadioptre blanc à l'avant et rouge à l'arrière,
oui.
Des réflecteurs de pédales, sur les pédales.
Sauf pour les pédales automatiques, où il y a une tolérance pour ne pas en avoir.
Parce qu'elles sont très fines.
Non, parce qu'on ne peut pas, physiquement pas en installer dessus.
Oui, parce qu'elles sont trop fines. Et des réflecteurs visibles latéralement.
qui en a deux types. Alors traditionnellement, c'était des déflecteurs orange qu'on coinçait dans les rayons.
Selon le code de la route français, c'est des déflecteurs orange.
Oui, ce que je viens de dire. Et donc, c'est pas ce que j'ai dit ?
Tu as dit traditionnellement.
Oui, parce que oui, traditionnellement.
Bon, alors, arrêtez de m'embêter. Donc, tout cycle doit être muni.
C'est toi qui nous fais signe de main, donc.
Non, je te regarde parce que tu avais envie de dire quelque chose. Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement, et les pédales de tout cycle doivent comporter des catadioptres. Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant. Mm-hmm. Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger, etc. Il y a des voilà. Il y a pas plus que ça dans les textes de loi.
Dans les textes de loi, il y a pas les catadioptres de roue.
Alors justement, il me semble.
Les catadioptres latéraux.
Alors, c'est peut-être que
tout
justement
doit être
le code
de catadioptre orange visible latéralement.
Oui, c'est ça.
Ça c'est le code français. Sauf que le code européen autorise les réflecteurs blancs, notamment donc les bâtonnets réfléchissants fixés dans les bâtons, dans les rayons, et les bandes flex de.
Ça vous dérange pas de faire mon dossier à ma place. Ça va ? Incroyable. Ils sont toujours comme ça. Et le gilet jaune, qu'on appelle gilet de haute visibilité, parce qu'il peut ne pas être jaune, est obligatoire, ou Lagerfeld, est obligatoire la nuit hors agglomération, ou le jour quand la visibilité est insuffisante. Donc ça c'est hors agglomération. Donc j'ai fait une petite liste du matériel possible dont vous pouviez vous équiper. Ah pardon, avant ça, j'ai oublié de dire que si votre vélo tracte une remorque, elle doit être équipée d'un catadioptre, ou d'un catadioptre de chaque côté si la largeur dépasse 1m30. On sait jamais, pour ceux qui n'ont pas de cargo. Circuler deux jours sur un vélo sans éclairage ne constitue pas une infraction, Vincent, c'est bon.
Ouf, sauvé.
Mais attention, à l'orage, au tunnel, notamment nous à Lyon, dans notre super tunnel de la Croix-Rousse, ou au retard imprévu, typiquement, tu pensais rentrer avant la nuit. Le matériel possible qu'on peut utiliser pour s'éclairer. Donc, ce que j'ai pas dit tout au début, c'est que j'allais vous parler du matériel possible, du prix, et vous donner mon conseil et le conseil de la FUB, Fédération des usagers de la bicyclette. Donc le matériel possible en éclairage actif, sur votre vélo, vous pouvez mettre une dynamo, dans le moyeu de la roue ou une dynamo latérale. Vous pouvez aussi mettre des pédales clignotantes. Pardon, c'est l'éclairage passif.
Les pédales clignotantes, c'est un éclairage actif.
C'est entre les deux, on va dire.
Non, c'est une générateur de lumière.
En tout cas, j'en ai et je suis très fier
Tu en es très fier.
Les pédales de Kéké, parce que c'est beau, c'est voyant. En amovible, vous pouvez avoir des phares amovibles, donc il s'agit des éclairages qu'on voit très très souvent, qui s'attachent souvent avec un petit élastique autour de la potence ou autour du cintre. Sachez que maintenant on en fait avec des LED, et en plus il y en a rechargeables via USB, j'en avais déjà parlé dans un autre numéro de podcast je pense. Et donc c'est assez chouette quand on est à proximité d'un ordinateur la journée de pouvoir recharger ses lampes, voilà. Il y en a qui sont sur pile, et il y en a de plusieurs couleurs, plusieurs motifs, plusieurs tarifs également.
Et plusieurs puissances. Parce que pour avoir, il n'y a pas si longtemps que ça, fait une sortie de nuit en race campagne, un petit éclairage basique à pile en race campagne, eh ben tu fais pas le fier. Hein, parce que non seulement les voitures ne te voient pas arriver.
Ouais, alors si tu as un éclairage à pile, ce qu'il faut, c'est avoir des piles de rechange. Parce que souvent, oui. quand ça faiblit. Ça chute assez vite. Ah, pinaise, j'ai mis des notes et elles sont désorganisées. Toutes seules, évidemment. Ce que vous pouvez utiliser également, si vous avez rien du tout, ou si comme Vincent, votre vélociste vous a rien fourni, vous avez peut-être une lampe frontale chez vous, donc vous pouvez toujours soit la mettre sur votre front, soit l'attacher à votre vélo. Ça me regarde l'air un peu dubitatif, mais je vois beaucoup de gens rouler avec une lampe frontale.
Une frontale, tu n'es pas, selon le code de la route, homologué pour circuler avec une lampe frontale. C'est toléré, parce que c'est mieux que de ne rien avoir, bien entendu, mais selon
c'est pas homologué si t'as pas d'autres éclairages, mais ça peut être un éclairage supplémentaire. Là, je vous parle pas que des choses obligatoires, je vous parle de tout ce que vous pouvez mettre sur votre vélo. Donc en éclairage passif amovible, on a le gilet jaune tout simplement, les slaps. Est-ce que tu sais ce que c'est les slaps?
Pas du tout.
Alors là je vois que Prokilus se lève et va chercher immédiatement des slaps. Nous on doit en avoir un peu partout dans la maison.
Les enfants adorent jouer avec.
C'est des
pinces de pantalon.
C'est des pinces de pantalon, mais qui en général sont des petites bandes en métal et ça fait une espèce de bruit slap.
Ça fait slap quand on les claque. Non mais Proc, ça va rien rendre sur le micro, ça va juste faire du bruit. Oui.
Donc Proc essaye de faire une démo et de mettre le micro à côté.
J'ai les mêmes à la maison.
Donc finalement, voilà. Donc on appelle ça des slaps ou des wraps, ou il y a plein de noms. Sur le vélo, on peut mettre des bâtonnets réfléchissants qui se mettent sur les rayons. On peut aussi avoir les flancs des pneus qui soient réfléchissants. On peut aussi mettre un écarteur de danger. Souvent, au bout, ils ont un catadioptre. L'intérêt, c'est que quand la voiture va éclairer votre catadioptre, qu'au bout de l'écarteur, c'est déjà un peu plus loin que votre vélo.
Alors que bon, on sait tous très bien que le vrai écarteur de danger, le seul efficace, c'est celui qui est bien pointu, acéré, qui risque de rayer la carrosserie de la voiture qui vous frôlerait trop près.
au moins. C'est méchant.
Alors, non, moi je
Grincheux, c'est. En fait, c'est Ben Hur.
Oui, non.
Avec un char, avec des pics.
Je vous ai encore jamais parlé de mon projet de charger mon Airzoon avec du napalm ou de l'alcool et de l'utiliser comme
ça pose des problèmes de santé publique quand même là à ce stade.
Non, par contre pour ce qui est de l'écarteur de danger actuel, moi j'ai toujours cru que c'est des battoirs à bisu. On m'a dit que ça servait à ça. Mais
des battoirs à bisu.
Ouais, tu chercheras sur internet ce que c'est qu'un battoir à bisu.
Non, je crains le pire. Et en éclairage passif amovible, j'ai parlé des slaps et du gilet jaune. J'ai pas parlé du fait que le gilet existe en bande réfléchissante qu'on porte un peu comme Miss Monde. C'est-à-dire un maire qui vient d'être élu, vous voyez ce que je veux dire ? Une espèce de bande d'écharpe voilà, qui se met en travers mais qui est réfléchissante. Vous pouvez aussi mettre des patchs réfléchissants sur votre sac, si vous avez un sac. Je pense notamment aux enfants qui vont à l'école, aux jeunes. Et sur le vélo, donc, vous pouvez avoir des bâtonnets réfléchissants, le flanc des pneus, l'écarteur de danger. Et vous pouvez aussi, bon, je l'ai peut-être mal rangé dans les catégories, avoir, il existe, des poignées avec des clignotants au bout.
Oui.
Bon, c'est intéressant pour dire qu'on veut tourner plus que pour dire qu'on est là, mais typiquement, si c'est le soir, la nuit et que vous voulez tourner, ça peut être pas mal. J'hésitais à en acheter parce qu'avec mes pédales clignotantes, ça aurait bien fait style.
Tu veux pas que je t'offre un lilipad et que tu te programmes ça
Mais.
Parce qu'il y a des solutions pour bricoleurs geeks avec des micros. Des micro-circuits intégrés, donc des lilipads.
Oui, là, tu l'as dans le dos, en fait, sur ta veste.
Qui te permet de coudre des LED sur ton le dos et avec des interrupteurs au niveau des manches, de pouvoir actionner les clignotants.
Alors, j'essaye de...
C'était le principe du Seal Bag, S-E-A-L. C'est sorti il y a quelques années, c'était en 2010, par là.
Bah, le Lilipad, c'est un micro-contrôleur dédié au textile, en fait.
Pour ceux qui connaissent, c'est un Arduino, en fait. C'est un Arduino, mais dédié au textile.
Tu vois, là, pour moi, c'est là que c'est du chinois, en fait. Je comprends pas du tout ce qu'ils disent.
J'essaye de trouver des images pour Vincent. Donc là, on voit des gens qui ont des vestes. Ils ont installé des petites LED en forme de flèche dans le dos. Il y a deux chevrons, deux flèches.
Je vous mettrai une vidéo.
Grâce au Lilipad qui fait mes contrôleurs et au circuit intégré dans la veste, depuis les poignets des manches, on peut déclencher l'allumage d'une flèche ou d'une autre.
Ça fait un peu Iron Man, je trouve.
C'est la classe ou c'est plutôt cheap ?
Ah bah, Iron Man, c'est quand même un peu la classe, hein. Mais ça fait un peu bizarre, là.
Et on a une photo aussi où on voit plusieurs personnes avec toute la flèche dans la même direction. Donc c'est pas mal. Ah, on fera un numéro sur les chorégraphies à vélo une autre fois. Donc voilà, alors les Grincheux et Proculus en ont déjà parlé du fait que...
Des cargo bikes ?
Non, sur rouler la nuit. Que normalement votre vélo est vendu avec éclairage quand il doit rouler sur la route. Voilà. La plupart du temps, les éclairages qui sont dessus, ils sont quand même pas très puissants. Et du coup, j'ai noté deux choses. Que les normes allemandes imposent un éclairage d'au moins 10 lux à 10 mètres. Ce qui n'est pas le cas des normes françaises du tout, mais on va dire eux, ils sont assez rigoureux. Et donc si vous vous basez sur cette norme pour essayer de prendre votre propre éclairage, vous aurez quelque chose de chouette. Et il existe des vélos avec une fonction feu de position. T'en as peut-être déjà vu, toi, Vincent ?
Bah, il me semble que moi je parle de ce que je connais en tant que parisien, mais sur les Vélib, justement, je crois que quand ils s'arrêtent au feu rouge, ça reste allumé.
En effet, les phares des Vélib ont justement un petit condensateur qui leur permet de rester allumé pendant, avec une intensité moindre pendant un certain temps. Je sais que Proculus et moi, on avons également des phares
allemands, et donc cette fonction répond au doux nom de Sternlicht.
Et oui, parce que c'est obligatoire en Allemagne aussi. Et souvent les gens te disent « T'as oublié d'éteindre ton phare !»
Oui, et surtout quand, comme moi, mon phare reste allumé pendant plus de 5 minutes. On vient souvent, mais on arrive dans le bureau « Mais Grincheux, t'as oublié tes phares sur ton vélo ?» Non, c'est gentil.
Bien,
c'est gentil, mais non. C'est...
Tu leur répondras désormais « Sternlicht !» Comme ça, ils verront. Autre chose... Donc les très bons éclairages coûtent facilement entre 50 et 100 euros, mais vous pouvez compter 15-20 euros pour un éclairage de base. Donc même si vous avez acheté un vélo d'occasion qui vous a coûté moins de 50 euros, je pense qu'on peut raisonnablement consacrer 15-20 euros à un éclairage de base avec des trucs à piles.
D'autant que c'est notre sécurité qui est en jeu aussi.
Ensuite, j'ai quelques conseils à vous donner, et je finirai par le conseil de la FUB. Donc mes conseils, c'est de respecter le code de la route pour rouler la nuit. Je sais, ça paraît hyper ringard de rabâcher tout le temps qu'il faut respecter le code de la route.
On est deux à le répéter avec toi, donc on va certainement pas te contredire là-dessus.
Et les points du code de la route hyper cruciaux la nuit.
Ce soir, même trois à être d'accord avec toi là-dessus.
Ce soir, on est en consensus sur le code de la route. Les points hyper cruciaux, à mon avis, c'est les feux rouges, tout simplement parce que la nuit, quand je vois que le feu d'en face est rouge et que le mien est vert, je m'attends certainement pas à ce qu'un vélo déboule si je suis en voiture. Et faites attention aux priorités, éventuellement, sur certains passages. Je sais que là, les types en face de moi, alors pour qui me c'est grinché, ils seront peut-être pas d'accord. Moi, j'hésite pas des fois à ne pas prendre ma priorité quand je le sens pas. Quand je me dis que la personne ne m'a peut-être pas vu, que la personne est peut-être fatiguée ou alcoolisée, etc.
Non, je te contredirai pas. Si tu le sens pas, tu le prends pas, hein. Je veux dire.
Même si j'ai la prio, je préfère la laisser plutôt que de risquer l'accident.
Non, je suis également tout à fait d'accord. Je cherche généralement à faire valoir ma priorité tout en gardant la réserve de pouvoir m'arrêter et laisser passer la voiture si ça passe pas.
Disons que face à une tonne de métal, de la fierté, ça te sert à rien.
Voilà.
Oui, non, mais j'insiste là-dessus sur le fait de rouler la nuit. Bon, surtout en ville, évidemment, mais parce que j'ai déjà eu des grosses surprises en passant dans des rues où c'était jeudi soir, vendredi soir ou samedi soir, et c'est des rues où il y a plein de bars de nuit ou boîtes de nuit, et du coup il y a des gens qui sortent de ces endroits, qui prennent leur voiture pour rentrer chez eux ou aller ailleurs, et qui roulent sans faire super gaffe eux-mêmes aux priorités, donc vaut mieux être prudent pour...
Qui dit nuit dit bar, qui dit bar dit potentiellement conducteur alcoolisé.
Potentiellement.
Et du verre par terre.
En plus de faire attention aux gens qui sortent des bars, comme autre astuce dans mes conseils, vous pouvez mettre des vêtements colorés. Je vous conseille, si vous pouvez, plutôt de mettre des vêtements colorés. Les vêtements de sport ont souvent des parties réfléchissantes, de plus en plus, ce qu'on achète maintenant. J'ai personnellement une soft shell qui est rouge, framboise, et quand c'est la nuit et que des phares l'éclairent, c'est assez visible. Ou des vêtements clairs, colorés ou clairs, vous pouvez. Dernière astuce, nettoyez vos catadioptres, parce qu'avec le temps ça s'encrasse. Personnellement, avec le mauvais temps, voilà, j'ai regardé mes petits bâtonnets réfléchissants l'autre jour, ils étaient assez crasseux, donc je pense que je vais les nettoyer.
Alors les bâtonnets réfléchissants s'abîment assez vite, mais continuent à être contre toute attente très réfléchissants.
Oui, mais c'est pas une raison pour les laisser crado. Et nous, ce qu'on fait quand on croise un cycliste qui est pas éclairé, alors il y a plusieurs versions, moi je crie ninja pour lui faire comprendre que tel un ninja, il évolue dans le noir. Je pense que la personne ne comprend pas, mais moi ça me fait rire, ça me détend, donc c'est toujours ça.
Pour ma part, j'ai emprunté tu voulais que je te donne ma version. Moi j'ai emprunté celle de Nicolas, le président de la ville à vélo. À chaque fois ils ont droit à un sans phare, c'est joueur.
Ouais, c'est un peu long, faut comprendre ce qu'on t'a dit quand tu passes en roulant.
C'est le problème, c'est d'arriver à faire passer un message qui ne soit pas agressif en croisant quelqu'un, donc qui ne va pas pouvoir comprendre grand chose. C'est malheureusement pas.
À la manière dont tu dis, t'inquiète pas, tu sais que la personne l'entend, hein, y a pas de problème.
Oui, alors ça dépend si ta voix porte bien et tout. Et il y a un autre truc qu'on peut dire, que j'ai entendu des gens dire lumière, ce qui est plus logique en soi, mais ce qui à Lyon est un peu confusant. Puisqu'on a quand même un quartier qui s'appelle Lumière, de nom donné par les Frères Lumière. En plus, on enregistre en ce moment, c'est le Festival Lumière. On a donc des avenues des Frères Lumière, une station de métro Lumière, etc. Donc du coup, on comprend pas trop, je pense.
Pour ma part, quand tu dis Lumière, je repense au cinquième élément. Mais...
Aziz, light.
Aziz, Lumière.
Oui, mais ça pourrait être marché. Donc si un jour vous entendez quelqu'un vous interpeller, qu'il fait sombre, dans une ruelle sombre à vélo, peut-être, vous n'avez pas d'éclairage. Je terminerai par le conseil de la FUB, qui a fait un dossier dont je mettrai le lien, un PDF de 15 pages, qui est beaucoup plus complet que tout ce que je vous ai dit sur l'éclairage à vélo. Le conseil de la FUB, c'est ne comparez pas le prix de l'éclairage avec celui de votre vélo, mais avec celui que vous accordez à votre propre sécurité. Les prix les plus bas sont malheureusement souvent corrélés avec une fiabilité et une durabilité très faibles. Un équipement de qualité est un investissement durable dans le temps. Voilà.
Rien à rajouter.
Voilà, pas mieux.
Après ces nouvelles de nuit, même si, vu l'heure qu'il est quand on enregistre, les enfants ne sont plus là, Grincheux, tu voulais nous parler du transport des enfants à vélo.
Eh oui. Parce que bon, nous autres cyclistes, à l'instar des autres êtres humains, avons tendance à nous reproduire.
Non, pas moi.
Alors, je te souhaite que ça vienne un jour. Et là vient la question de comment transporter sa progéniture. Alors tout d'abord, on va commencer par évincer la mauvaise idée. Transporter son enfant dans un porte-bébé est non seulement interdit en France, mais surtout excessivement dangereux. C'est d'ailleurs pour cette deuxième raison que c'est interdit que vient la première.
Surtout, ça dépend de sa taille. S'il a 8 ans...
Oui, enfin, on va revenir là-dessus après. On va dire qu'à 8 ans, il doit commencer à pouvoir être autonome pour se déplacer. En effet, qu'adviendrait-il si vous tombez même à basse vitesse? Votre précieux rejeton risque de jouer le rôle d'airbag et c'est une perspective perspective qui va sûrement pas vous plaire. Donc je précise ce point-là parce que c'est quelque chose que je vois revenir régulièrement dans des débats, des gens qui transportent leurs enfants en porte-bébé. Je suis tout à fait un défenseur du portage des enfants, mais du portage à pied, à vélo, c'est un risque énorme qu'on leur fait prendre.
Est-ce que dans l'eau tu intègres les personnes qui transportent leurs enfants, même un petit peu plus âgés, sur la barre du vélo ou assis sur le guidon? Moi je trouve ça super dangereux. Je l'ai déjà vu et ça je trouve ça hallucinant.
C'est très dangereux également.
Mais pas autant, on est bien.
Mais pas autant, parce que en cas d'accident, l'enfant va, de la même façon que nous, va être éjecté du vélo, risque d'avoir des lésions liées à la chute, mais risque moins d'avoir des lésions liées à l'écrasement par son parent.
On est d'accord. Okay.
Quand on a des enfants qu'on prend en porte-bébé, c'est en général qu'ils font moins de 8 kilos, ils ont quelques mois. Si nous, on arrive même quelqu'un de stature très fine avec 50 kilos sur un gamin qui fait moins de 10 kilos, de toute façon, un gamin de 10 kilos, elle n'arrivera plus à le porter. Tu tombes avec 50 kilos sur un gamin de 6-8 kilos, ça sera une catastrophe. Donc maintenant, nous allons parler des solutions, parce que heureusement, il y a aussi des solutions. Donc je vais découper tout ça en trois catégories. Donc avant 9 mois, avant 5-6 ans et au-delà. Donc tout d'abord, avant 9 mois, il ne faut pas se leurrer. C'est très délicat de transporter un bébé. Pourquoi ? Parce que les enfants avant 9 mois ne tiennent pas leur tête correctement. Ils ont besoin de plus de protection. Et ne pouvant pas tenir assis, on peut pas les... Il faut trouver des solutions adaptées. Donc il existe des adaptateurs pour installer des cosy de type automobile sur un porte-bagage. Mais sinon, hors vélo cargo, point de salut ou presque. Et puis, mettre le cosy sur le porte-bagage, j'ai vu des gens circuler avec, mais ça donne un aspect quand même assez mis en avant du bébé, alors que dans le cosy, c'est quand même il est quand même très très protégé, mais c'est visuellement, psychologiquement, c'est peut-être un petit peu difficile. Avec un vélo cargo avant 9 mois, donc on a la possibilité d'installer un cosy automobile également, alors soit avec des adaptateurs, soit avec des bricolages qui peuvent être tout à fait fiables. Donc on a vu pas mal de parents installer des cosy à l'aide de sangles et des chambres à air pour assurer un amortissement. Il reste là après les questions de protection contre la pluie, parce que le cosy, un cosy automobile n'est pas fait du tout, déjà le siège lui-même n'est pas fait pour être exposé aux intempéries, et l'enfant appréciera de ne pas être détrempé dans une mousse qui fait éponge. Il y a également des coques que l'on peut fixer dans un cargo, donc soit sur le fond, soit sur le banc, mais malheureusement elles n'offrent que peu d'amorti et de protection.
C'est le cas par exemple des canopies.
Là je pense à la coque.
Ah d'accord, juste une coque.
Voilà, donc souvent ce sont des coques plus ou moins enrobantes, mais c'est pas aussi enrobant qu'un cosy, avec une ceinture 3 ou 5 points, donc qui offre un maintien correct de l'enfant dedans, qui sont homologués, donc il n'y a pas de crainte de sécurité, c'est pas du bricolage, mais malheureusement il n'y a pas le même maintien que dans un cosy, il y a moins d'amorti, ce sont des coques en polystyrène, donc dans un cargo à plateau avant, l'enfant va être dans la benne, donc va être protégé par la benne du cargo, ce qui assurera le gros de la protection, mais c'est il y a moins, surtout c'est au niveau de l'amorti où c'est moins ça va être un moins rassurant qu'un cosy. Alors la dernière solution, ça va être la remorque, où on va souvent généralement avoir la possibilité d'installer une sorte de hamac. C'est des hamacs avec des harnais et tout ce qu'il faut pour que l'enfant soit confortablement installé et correctement protégé, mais la remorque que bon, bah, de mon point de vue, a beaucoup d'inconvénients parce que c'est des contraintes, ça prend de la place dans la circulation, ça prend de la place tout court. Il faut la garer, faut la laisser quelque part. Si c'est pas le même parent qui amène l'enfant le matin et le récupère le soir, c'est voilà, beaucoup de contraintes.
Il faut deux attaches dans ces cas-là.
Il faut deux attaches, mais il faut se passer à la remorque aussi.
Sauf si tu l'attaches et que tu la laisses devant l'école.
Enfin, devant l'école, chez la nounou, voilà. Les remorques souvent sont très difficiles à sécuriser parce que les roues sont avec des attaches rapides et tu peux pas difficilement fixer le cadre. Enfin, bon, pour moi, c'est une solution qui ne m'est pas satisfaisante. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en gros, avant que l'enfant ne soit capable de se tenir assis et de tenir sa tête correctement, les solutions qu'on va trouver sont plus adaptées à la balade occasionnelle qu'à un usage au quotidien. Alors après, à partir de 9 mois, donc là, l'enfant tenant assis, se tenant, les possibilités se démultiplient et parce qu'on va pouvoir enfin le transporter dans ce qu'on trouve comme siège bébé le plus souvent, le siège qu'on voit à l'arrière des vélos de façon classique. Alors je parle ici de siège homologué aux normes actuelles, donc à savoir un siège qui est fixé sur le vélo avec l'enfant qui est maintenu via une ou des ceintures, les pieds tenus pour éviter de se prendre les pieds, se les prendre dans les rayons. Donc on oublie tous les bricolages dangereux, comme j'ai vu avec des fauteuils en plastique de jardin pour enfants qui sont tenus avec des sangles sur le porte-bagages, je l'ai vu, ou les accessoires vintage fashion de bobo qui veulent privilégier le style rétro de leur vélo en installant un siège plus vieux qu'eux.
C'est la photo qu'on voit sur ton PC, là.
Je mettrai la photo sur le billet. Donc un truc qui date des années 50.
Croyez-moi, c'est dégueulasse.
Une armature de fer avec une vague mousse.
Quand j'étais petite, j'avais un siège comme ça pour être dessus.
Oui, et déjà, elle était hors d'âge quand tu étais petite pour l'installer.
Il s'agit de plaques. De contreplaqué ou de bois, recouverte de mousse, recouverte de cuir. Il y a une plaque pour le FS et une plaque pour le dossier. C'est relié par.
D'accord, je vais le mettre en photo sur le. Je vais mettre les photos, je vais les mettre sur le billet. Donc, préférez plutôt un modèle récent dont la coque protège correctement, donc de façon englobante, l'enfant, qui va avoir un dossier suffisamment haut pour lui maintenir la tête, qui ne se fasse pas un coup du lapin. Certains dossiers prévoient également un petit décrochement pour l'épaisseur du casque.
C'est ce que j'avais posé comme question. Est-ce que tu préconises le casque et pour les tout petits dont tu parlais avant avec les coques, les cosy et compagnie, comment on fait
pour les tout petits? D'abord, de toute façon, tu ne trouveras pas de casque à la bonne taille, le casque va gêner d'installer dans un cosy ou dans une coque et va donner une mauvaise position, va ramener la tête en avant de l'enfant et donc pour moi tant que l'enfant ne se tient pas tout seul, le casque il ne faut pas mettre de casque, mais c'est un grand débat, mais les enfants étant encore en phase de croissance et de développement, je suis plutôt favorable à ce que les enfants portent leur casque à vélo. Donc, dans les sièges homologués, le siège va avoir des espèces de godets pour fixer les pieds, des accoudoirs qui, en plus, protègent les côtés de l'enfant en cas de chute, ce qui fait que les bras, on peut pas non plus ligoter l'enfant. Donc, les bras risquent toujours de dépasser et d'avoir des blessures sur les bras, mais tout le torse, les jambes, tout ça sera protégé par le siège lui-même en cas de chute, même bending. Pour les plus jeunes enfants, privilégiez des sièges où l'on peut aussi régler l'inclinaison. Ça sera plus confortable aussi pour les siestes, ce qui arrive très facilement avec le bercement du vélo. Alors après, tout ça, ça a un coût.
Est-ce que le bruit de la roue libre peut bercer ton enfant?
Je pense que c'est plus la sensation du roulis qui va bercer l'enfant et l'amorti du siège.
Parce que personnellement, j'ai confié plusieurs fois mes enfants
à un copain qui a une roue libre Hope.
Et je pense que ça berce les enfants.
Pour l'explication, parce que Vincent ne doit pas. Une roue libre Hope fait un bruit de crécelle absolument insupportable. C'est un.
Merci pour l'explication pour le béotien.
Voilà, non, mais il n'y a pas de problème.
J'ai pas le son de la roue libre Hope, mais j'en ai une autre un peu similaire, normalement quelque part là-dedans.
Ah, tu cherchais Angry Bee là.
Ouais, non, je sais pas où est-ce que je l'ai.
Bon, c'est pas grave, enchaîne.
On coupera au montage, on ajoutera au montage.
Oui, je vous remettrai ça au montage. Donc, j'en étais donc le siège, donc privilégié, un siège qu'on va pouvoir incliner, ce qui va être plus confortable pour les siestes. Alors, avec les cargos, on a bien entendu la possibilité de mettre les enfants à l'avant, ce qui leur offre plus de place. Et si on fait des trajets un peu longs, ça leur permet également de pouvoir jouer dans une certaine mesure dedans, ce qui est beaucoup plus limité dans un siège arrière. Et puis après, on a toujours aussi la possibilité d'utiliser encore la remorque, parce que avant 5-6 ans, généralement, les enfants tiennent toujours dans la remorque. Donc si on a opté dès le départ pour la remorque, rien ne nous empêche de continuer à l'utiliser.
Je t'arrête tout de suite, la remorque, ça peut faire jusqu'à 20-22 ans. J'ai déjà embarqué des potes dans une remorque, ça marche quand même.
Je ne parle pas des expériences bourrées.
Est-ce que c'était tes enfants?
Non, c'était pas mes enfants. Et toi, en plus, tu sors les vieux dossiers, c'est honteux.
Tu tends la perche.
Oui, bon, je tends la perche pour me faire battre, c'est vrai.
Donc, pour continuer, donc à partir de 5-6 ans, les enfants commencent généralement à être plus autonomes à vélo et peuvent circuler par eux-mêmes. Mais bon, nous ne vivons pas tous à Copenhague ou à Portland, et laisser les plus jeunes rouler dans la rue n'est pas forcément rassurant pour les parents, et puis n'est pas forcément... faut que l'enfant soit quand même atteint une certaine maturité pour pouvoir d'abord être suffisamment confiant dans sa façon de rouler pour qu'on le laisse rouler sur la route, et la maturité de pouvoir prendre en compte tout l'environnement et tous les paramètres de la circulation autour d'eux. Donc pour des trajets du quotidien, c'est peut-être pas l'idéal. Ça va être adapté pour faire des balades de week-end, de vacances, mais peut-être pas pour le quotidien. Et puis par contre, pour les balades, l'enfant n'aura pas forcément l'endurance pour faire de longues balades, et pour le quotidien, il va avoir un autre souci, c'est que faire du petit vélo une fois arrivé à l'école.
Alors quelle est la solution?
Attaché devant l'école. Soit j'ai vu plein de vélos.
Tout à fait.
Attachés.
On peut soit attacher le vélo devant l'école et l'enfant récupère le vélo le soir. Mais avant le collège, donc rares sont les établissements qui proposent un stationnement vélo pour les élèves. Donc c'est pas toujours très adapté de pouvoir attacher le vélo. Et une solution, que c'est pas non plus la solution ultime.
Je sais que c'est pas forcément légal, mais maintenant t'as beaucoup de barrières avec Vigipirate et pour la sécurité des enfants. Donc t'as des mobiliers urbains ou attachés.
Tout à fait. C'est une solution qui est plus ou moins satisfaisante. Le problème, c'est qu'on va laisser dans la rue toute la journée le vélo, donc il faut qu'il soit correctement attaché, sécurisé. C'est une solution. Une autre solution peut venir avec les Tailgator et autres Follow Me. Donc ce sont des barres de remorquage ou des systèmes de remorquage de vélo qui permettent de fixer le vélo de l'enfant derrière celui du parent, et donc soit de soulager le pédalage de l'enfant sur les trajets trop longs, soit de transporter le vélo à vide.
J'ai une question. Alors, il y a je vois la photo que tu as sur ton ordinateur. La question que je me pose, c'est qu'il y en a. Donc ça, c'est un système qui s'accroche au niveau de la roue arrière. Mm-hmm. Et tu as un système aussi qui est une barre qui se fixe au niveau de la tige de selle ou une chose comme ça. Oui. Alors, qui est le Trailgator, qui est le Follow Me?
Alors celui que j'ai en image, ça c'est un Follow Me. Le Trailgator, lui, c'est la barre qui se fixe sur la tige de selle.
D'accord.
Le Trailgator va être plus léger à installer, c'est-à-dire qu'il y a une barre que l'on fixe. Je mettrai également une photo d'un Trailgator, une barre qui se fixe sur le vélo du parent et qui se fixe après sur la potence du vélo de l'enfant. Et le Follow Me, lui, est une structure beaucoup plus rigide qui se fixe au niveau de la roue arrière du vélo des parents, enfin du parent, parce qu'on le met sur un seul vélo à la fois, et qui prend la roue avant du vélo de l'enfant. Donc le Follow Me est beaucoup plus complexe, mais en même temps beaucoup plus rigide, ce qui permet d'assurer une meilleure stabilité du vélo de l'enfant, mais c'est plus cher.
Et au niveau
du
poids,
Pardon. On reprend. Je voudrais demander combien ça coûte. Est-ce que
un Trailgator, je crois que c'est 70 euros, grosso modo, et un Follow Me, c'est 250. Donc voilà, la différence de budget est pas du tout. On n'est plus du tout dans le même budget.
Et au niveau du poids, tu sais?
Non, je connais pas le poids. Le Follow Me est bien sûr plus lourd, même si c'est des tubes d'acier, d'alu plus profilés que la grosse barre d'un Trailgator. C'est quand même plus lourd qu'un Trailgator.
D'accord.
Alors, j'ai cité le Trailgator. C'est une marque qui fait une barre de remorquage qui a pignon sur rue. Maintenant, beaucoup d'enseignes font leur propre version. Beaucoup de marques font leur propre version.
Je crois.
Decathlon fait sa propre version. Je ne parle pas du Trailgator. On n'est pas maqué avec Trailgator ou Follow Me, etc.
C'était un exemple.
Maintenant, si quelqu'un de chez Follow Me veut nous en envoyer un pour qu'on en fasse.
Oui, on peut tester. Il n'y a pas de problème. Tester, il suffit d'envoyer. Vous nous contactez. Grincheux@cyclocast.fr, c'est ça?
Exactement.
Ou Mogor@cyclocast.fr. Voilà. Pas hésiter. Parce que moi j'ai pas d'enfant. Et voilà.
On peut pas remarquer des adultes avec le Follow Me.
Je ne suis pas sûr qu'au niveau du poids, ce soit recommandé. Mais par contre, je crois qu'on doit être limité à 24 pouces, 20 ou 24 pouces au niveau de la taille des roues du vélo tracté. Donc on peut pas non plus l'utiliser comme solution de dépanneuse. Une dernière solution pourrait être, mais c'est plus orienté balade que trajet quotidien. C'est il y a des demi-vélos remorqués, des vélos girafes, ce qu'on appelle des vélos girafes. Donc qu'est-ce qui se passe, Mogor?
De quoi tu parles?
Oui, en fait, je vois ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que tu as un arrière de vélo avec un guidon de vélo.
C'est un vélo qui n'a pas de roue avant. Donc tu ne peux jamais
utiliser ce vélo
tout seul.
Voilà.
Sans être remorqué.
Voilà. Donc l'enfant peut pédaler sur ce vélo. Il est fixé sur le vélo du parent.
Personne ne te vole ce vélo parce que tu ne peux pas rouler avec. Donc tu peux le laisser attaché devant l'école.
Si tu veux, c'est un demi-tandem qui se greffe à l'arrière d'un vélo adulte.
Du coup, j'ai cherché, j'ai l'image sous les yeux.
Voilà. Y a ça, et il y a une version plus orientée rando encore. J'ai perdu le nom. Où là, l'enfant est assis. Donc ça s'assimilerait plutôt à un vélo couché pour l'enfant. Willy Roux, je sais plus. Je vous retrouverai le.
Et le vélo girafe, ou je ne sais quel est son nom officiel. Le demi-vélo, c'est quel ordre de prix?
Alors là, je connais pas l'ordre de prix.
Bon, je vais voir si je trouve.
Mais bon, là, il y a toute la roue arrière. Avec la transmission, donc ça va tout de suite, à mon avis, être pareil au moins dans les 250 €.
J'ai vu ça fixé sur un Brompton à Lyon.
Ça commence à faire des choses.
C'est assez bizarre, mais ça marchait bien.
Pour info, pour ceux qui ne sauraient pas, le Brompton, c'est une marque de vélo pliant qui est un des vélos pliants les plus compacts, alors les plus stylés, les plus c'est très bobo parce que c'est anglais, très 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 classe, etc. Mais c'est aussi de la très très bonne qualité. C'est un des vélos les plus compacts dans les vélos pliants et très roulant. Donc mais on dérape un peu du sujet. De ce dossier. Donc voilà, je pense vous avez fait un petit aperçu de comment est-ce qu'on peut transporter les enfants en fonction de leur âge avec les vélos. Mogor, tu avais des choses à rajouter?
Non, en même temps, j'essayais de montrer à Vincent tout ce que tu racontes sur
d'accord.
les Trailgators, les vélos girafes et autres Follow Me.
Ok.
Tout simplement. Donc. Est-ce que Prokylus, tu...
Bah écoutez, oui, c'est parti. Moi, je vais vous parler.
Quelque chose.
Oui, j'ai préparé un petit dossier. Donc, cet été, vous le savez, j'ai voulu me faire plaisir. C'est-à-dire, j'ai voulu rejoindre ma famille dans ma région natale en faisant tout le trajet à vélo. Pour ça, je suis passé par la Via Rhôna, dont nous avons tous beaucoup entendu parler. Du coup, j'ai eu envie de vous parler de la Via Rhôna ce soir. Voilà. Alors, tout d'abord, la Via Rhôna, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, Mogor? T'es encore sur les vélos girafes?
Non, pas du tout. Ton dossier, je ne le vois pas prévu dans le programme, c'est tout.
Oui.
Donc, je le cherche.
Non, mais tu l'as zappé, mais c'est pas grave, il était prévu dans le programme.
Bref, peu importe. Donc, la Via Rhôna, qu'est-ce que c'est? Donc, il s'agit d'une véloroute, c'est-à-dire d'un itinéraire cyclable dédié au voyage et donc répondant à certains critères. Le parcours doit être continu, répondre à certains... Je vais y venir. Répondre à certains impératifs de sécurité. Donc, soit ce sont des voies en site propre, soit les routes qui vont être empruntées, les routes traditionnelles, doivent présenter une circulation inférieure à 1000 véhicules motorisés par jour.
Ça fait pas beaucoup.
Je vais y venir. Ça fait pas beaucoup, mais c'est pas si rare que ça. Ce sont souvent ce qu'on appelle les routes, moi ce que j'appelle les routes de vigne vers chez moi. C'est les routes qui servent à desservir les champs, à desservir les vergers, etc. Et il y a guère que les paysans qui les prennent pour aller dans leur plantation. Donc je disais que il y a certains impératifs de sécurité, c'est du site propre ou des routes inférieures à 1000 véhicules motorisés par jour. La véloroute doit également présenter un jalonnement clair et uniforme. Ce parcours doit être correctement desservi au niveau des relais, donc des relais transport en commun ou SNCF. Ce parcours doit également être correctement entretenu. et il doit être facile d'utilisation, même pour des cyclistes novices. On part du principe généralement qu'une véloroute doit avoir une déclivité qui est inférieure à 3%. C'est pas toujours possible, et spécialement dans certaines régions comme les Alpes. Voilà. Et enfin, elle doit être incitative et non pas obligatoire. C'est-à-dire que le cheminement pour les cyclistes, il leur est proposé, mais les cyclistes doivent pouvoir prendre la route s'ils le préfèrent. Ils ne doivent pas être forcés de le prendre. Donc je répète, pour une véloroute, parcours continu, impératif de sécurité, jalonnement, service, donc service relais, entretien, utilisation facile, avec les déclivités inférieures à 3%, et ensuite véloroute incitative et non pas obligatoire. Donc, de ce que je viens de dire, on devine que la Via Rhôna emprunte aussi bien des voies vertes ou des voies cyclables que des petites routes de campagne, et en théorie, grincheux, sans s'interrompre. Dans les faits, elle est encore en construction, donc à quelques endroits, vous rencontrerez des interruptions, avec des relais par des départementales un peu fréquentées, mais rarement, sur 1 ou 2 km à tout casser, sauf à un endroit, je vous en parlerai après, en détaillant un petit peu le trajet que j'ai fait plus précisément. Alors, hop, attendez. En fait, Grincheux me montre comment on peut faire dérouler le PDF sur son ordinateur. J'apprends des choses tous les jours. Géographiquement, la Via Rhôna, c'est un projet qui est très ambitieux. C'est une véloroute qui suit le Rhône du lac Léman, et très exactement de la commune de Valéry, jusqu'à la Méditerranée. Alors, comme le Rhône forme un delta encadré par deux bras, la Via Rhôna se divise en deux à Beaucaire pour aller d'un côté à Port-Saint-Louis-du-Rhône et de l'autre à Sète. Au final, ça représente 700 km. Et encore, 700 km en France! Parce que la Suisse a également une véloroute qui suit le Rhône, anciennement la route numéro 1 du Rhône, qu'ils ont aujourd'hui rebaptisée Via Rhôna également, pour avoir une petite continuité avec la France. Donc maintenant quelques chiffres. Je veux juste vous demander d'être indulgent, parce que les sites que j'ai consultés, et j'en ai consulté beaucoup, se contredisent assez souvent, parce qu'ils n'ont pas toujours été mis à jour à la même période. Donc j'ai dû recouper un petit peu tout, j'ai essayé de faire une moyenne, voilà, si... Inutile de me spammer, de me dire « Ah mais non, c'est pas du tout ça !» Je sais, il y a des petits calculs qui tombent pas tout à fait juste. Mais c'est pour vous donner un aperçu. Donc, la longueur totale de l'ouvrage une fois terminé, 704 km, en comptant petit et grand Rhône. Globalement, 580 plus 120, grosse maille. 100 km étaient réalisés en 2008. En 2012, on passe à 265 km. En 4 ans, on a avancé de 165 km. C'est énorme. Pour 2014, on passe à 415 km annoncés. Cela dit, dedans, moi, c'est le petit bémol que je vois, c'est que on est à 150 km d'itinéraire provisoire. Alors, dedans, dans les itinéraires provisoires, rentrent aussi les itinéraires ardéchois qui sont considérés comme provisoires parce qu'ils ne sont pas encore enrobés. On est toujours sur du stabilisé, mais le tracé est définitif, et pour avoir pris le stabilisé, c'est quand même déjà très très propre. Donc faut pas trop cracher dans la soupe, et le stabilisé est bien. Mais bientôt, ça sera goudronné. Il y avait beaucoup de tronçons achevés en 2014, mais bon, bah j'ai pas tous les chiffres, quoi. Voilà. Sur les 265 km de 2012, il y en avait 187 km qui étaient en site propre, donc en voie verte, et 60 km en route de... En route secondaire, voilà, en route inférieure à 1000 véhicules motorisés par jour. On note que la Via Rhôna traverse, alors j'ai trouvé 12 départements, donc tous les départements Rhône-Alpin sans exception, Savoie, Haute-Savoie, Ain, Rhône, Isère, Loire, Ardèche, Drôme, plus les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard. Ma petite interrogation, c'est que en théorie ils en ont oublié un, c'est l'Hérault, parce que 7 ça se trouve dans l'Hérault, donc bon, j'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont pas compté. Pour moi il y en aurait 13, voilà.
Parce que ça porte malheur.
Ah, c'est peut-être ça, voilà, donc c'est ça. Bah, il fallait qu'ils étendent jusqu'à Béziers, ça en aurait fait 14. Voilà. Non, Béziers, ça reste dans les roues.
On s'en fiche.
Perpignan, allez hop, voilà, comme ça au moins on gagne un petit peu plus. Le départ, mais moi je suis comme un dingue, attends, on va jusqu'à Barcelone après. Le départ se fait à plus de 500 mètres d'altitude pour arriver à zéro, la mer. Donc voilà, il y a une belle déclivité quand même. Donc, après, je vais vous parler un petit peu de la réalisation, et la réalisation a été un peu houleuse. Comme je vous ai dit, c'est encore en cours, et elle ne se fait pas sans mal, et ce pour plusieurs raisons. Et je pense que Vincent, toi, tu dois pouvoir, ça va peut-être te faire penser à certaines réalisations d'axes routiers majeurs, parce que c'est toujours les mêmes problèmes qu'on rencontre, et en fait, avec la Via Rhôna, on rencontre ceux qu'on peut rencontrer pour des bretelles d'autoroute ou autre. Déjà, il y a la question du financement. Un projet pareil, ça coûte cher. C'est moins cher qu'une route, mais même bien moins cher qu'une route, mais ça coûte quand même de l'argent. Il a été lancé sous l'égide de l'État, de l'Europe, des régions et de la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône. D'ailleurs, c'est cette dernière qui est propriétaire d'une bonne partie des terrains sur laquelle la Via Rhôna passe. C'est souvent des chemins en fait de halage du Rhône. Certains de ces financeurs, généralement, ont coutume de se tirer un peu dans les pattes, généralement, l'État et les régions. C'est le grand problème de décentralisation qui est récurrent en France. Donc ça, on rencontre aussi souvent sur des bretelles d'autoroute, etc. On a l'État qui rechigne à filer du pognon, et puis il y a la région qui dit « Ah oui, non, mais vous voulez qu'on paye, etc. » Et puis il se tape dessus. Et ben là, pour la Via Rhôna, dans certains cas, c'est pareil. Ça commence à se calmer, mais on le rencontre. Donc souvent, l'avancement des travaux, il est conditionné par le déblocage des fonds. Ensuite, il y a la question de la maîtrise de l'ouvrage. Ce sont les communes, les communautés de communes et le département, selon la zone de la voie, qui sont maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire chargés de recruter les ouvriers qui réalisent l'aménagement, la manière dont c'est réalisé, etc. etc. Or, les problèmes de communication entre financeurs et maîtres d'ouvrage sont légion. Et souvent, les maîtres d'ouvrage, donc les communes, communautés de communes, départements, renaclent parfois à l'aménagement de la voie parce que c'est vécu comme une source de soucis supplémentaires, comme une chose inutile et chère. On leur fournit parfois un cahier des charges et puis, on le suit grosso modo, quoi. Néanmoins, les communes qui bénéficient des touristes à vélo, qui ont une entrée d'argent, une entrée de fonds qui est liée au tourisme, sont totalement convaincus de l'utilité de cette voie. Et généralement, ça a tendance à convaincre les communautés voisines qui après embrayent... marque le pas et réalise aussi leur portion de Via Rhôna. Donc les communes sont globalement conquises, sauf pour les communes provençales accueillant la voie. Et ouais, parce que concernant la région PACA, l'entrée des fonds, elle est générée par le tourisme à vélo. L'entrée des fonds est générée par le tourisme traditionnel. Et le tourisme à vélo, ça ne représente qu'une goutte d'eau dans la mer face aux entrées générées par le tourisme traditionnel. Donc généralement, le projet de la Via Rhôna, il est délaissé pour s'intéresser à des projets qu'ils estiment plus porteurs. Donc l'aménagement des plages, le tracé d'axes rapides, de voies rapides, etc. leur semble plus intéressant pour faire circuler les véhicules à moteur, etc. Et la Via Rhôna, on dit, bon, c'est 3-4 cyclistes, ça nous intéresse pas. Voilà. C'est dommage, parce que c'est la région PACA est une très belle région, et surtout, elle est vraiment faite, taillée pour le vélo, hormis pour le vent, parce qu'elle est elle est très très plate, donc on peut faire beaucoup de kilomètres très très vite. C'est vraiment dommage. Bon, donc je vous ai un petit peu détaillé ce qu'était la Via Rhôna. Maintenant, allez, on the road, le vécu, ce que j'ai vécu un petit peu cet été. Donc je vais pas pouvoir vous parler de l'intégralité de l'aménagement, parce qu'au final j'empruntais qu'une petite portion de 150 km entre Lyon et Charmes-sur-Rhône, mais je vais quand même vous en parler. Donc en partant de Lyon, on fait face au premier écueil, et c'est pour ça que dès que j'ai commencé à dire qu'il y avait une continuité, Grincheux a fait c'est que la voie dans le Rhône est quasiment achevée. Mais entre le tronçon amont, entre Jonc et Lyon, par le biais de l'anneau bleu, du Grand Large, du parc de Miry-Belgenage, etc., et entre le tronçon aval, Loire-sur-Rhône, Condrieu, il y a un gros no man's land qui s'étend. Il n'y a rien pour passer à vélo. Il n'y a rien de marqué, il n'y a rien du tout. Le site de la Via Rhôna, c'est l'un des seuls endroits où ils conseillent de prendre le TER pour franchir cette zone. C'est un comble. Alors que c'est normalement, il est censé y avoir une continuité. Donc là, la véloroute, elle n'est pas respectée. Tu voulais dire quelque chose, Rachel?
D'autant que là, on est sur une zone urbaine, et donc, périurbaine, et que ça bénéficierait pas simplement aux voyageurs, aux touristes de la Via Rhôna, mais à tous les cyclistes
de l'agglomération. Alors ils ont des voies cyclables, mais elles sont pas répertoriées comme Via Rhôna, et souvent c'est des bandes sur des routes qui sont relativement fréquentées. Ça colle pas trop avec l'esprit Via Rhôna, quoi.
Oui, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que l'effort à faire
n'est pas énorme,
mais ouais, en tout cas profiterait à beaucoup plus que, pour grossir le trait, quelques touristes.
On est bien d'accord. Donc, du coup, j'ai emprunté un trajet relais un petit peu moins reluisant qu'une Via Rhôna. Alors, en fait, j'ai suivi tout simplement la zone industrielle de Fézin-Saint-Fond, car elle représente l'avantage d'aller tout droit, sans relief, jusqu'à Vienne.
Et c'est très moche, mais c'est rapide au moins.
C'est très moche, mais c'est
et
super droit.
Et ça sent mauvais.
Là, quand j'y suis passé, ça sentait pas mauvais, il y avait pas de vent, ça allait à peu près. Et surtout, à 6h du mat, j'avais pas eu un chat. C'était génial. Donc, arrivé à Vienne, après, là, j'ai traversé à Saint-Romain-en-Galle, et c'est là qu'on attaque la Via. Alors, arrivé à Saint-Romain, j'étais un peu craintif, je me suis dit, est-ce que la signalisation va être suffisamment claire? Eh ben, oui! Ça, c'était la première bonne surprise. Si vous prenez la Via Rhôna, vous verrez, on se croirait sur la 7. Les distances sont précises, les destinations relativement claires. Mais
t'as pris le pont de la Mulatière, c'est ça ?
Non. Là, je suis bien plus bas, tu vois. Non, il y a pas de problème. mais contrairement à la 7, les panneaux, par contre, savent rester discrets. Il y a une certaine intégration dans l'environnement qui est faite, et c'est parfait. C'est juste ce qu'il faut. Ils sont ni trop gros ni trop petits. Ils ont la bonne couleur. Ils sont vraiment nickel. Juste un bémol. Tout au long, vous verrez que spécialement sur les chemins de halage, les voies sont bordées de peupliers qui ont des racines affleurantes, à l'instar des platanes ou autres, et ça soulève le goudron. Donc, si vous aimez envoyer du lourd, prévoyez des roues costaudes et des pneus un peu épais pour amortir, des pneus ballons, etc. Sinon, pour les vélos de course, il faudra ralentir sous crainte de péter un rayon. Voilà, je vous le dis. Enfin bon, il faudra quand même y aller très très vite pour péter un rayon. Mais
il n'y a que toi qui pète des rayons.
Ça c'est une attaque basse et mesquine, tu la paieras.
Désolé.
En arrivant sur Rampuy, on rentre vraiment dans la campagne. À certains moments, on doute un peu de passer au bon endroit. La signalétique est franchement discrète. Mais en fait, il faut se faire confiance, c'est très instinctif. Vous prenez la voie qui vous semble au pif la plus, et hop, et c'est bon, c'est la bonne voie. Donc vraiment, ça c'est génial, il n'y a pas de sursignalisation en pleine nature. Quelque part, je trouve ça intelligent, voilà. Medibal, si vous faites un jour ce trajet, prévoyez, si vous le pouvez, dans votre planning, de passer un moment dans la réserve de l'île du Beurre, et idéalement, le soir, au crépuscule. Vous avez des observatoires magnifiques pour la faune locale, vous avez une maison de conservatoire du patrimoine, où vous pouvez louer des jumelles. Si vous avez des enfants, ça peut être magnifique, vraiment. Bon, concrètement, les animaux, vous n'allez pas voir des flamants roses et des grues africaines. Quoi. Par contre, il y a des hérons cendrés. On peut observer des hérons cendrés, on peut observer des castors, et il y a une faune aviforme magnifique. Voilà. Donc, si vous êtes dans le coin, ça vaut le coup. Voilà. Bon, après l'île du Beurre, on arrive sur Condrieu. Jolie marina fluviale, coteau de pinard à tomber, n'est-ce pas ? Non, on a parlé de vin avec Vincent l'autre tout à l'heure.
Ça m'effraie, il me regarde droit dans les yeux quand il me parle de vin. Je il est en train de faire une réputation affreuse là.
donc une jolie marina fluviale aussi, ça m'a marqué parce que c'était en cru et on voyait bien les bateaux. Ils étaient bien au niveau de la voie. Et un aménagement des voies nickel. Le petit plus qui m'a fait couiner comme un enfant devant un chaton, la voie dispose de panneaux d'entrée et de sortie d'aglo. Vous avez à l'entrée Condrieu et à la sortie Condrieu barré. C'est voilà, une ville qui prend pas les vélos à légère, qui dit bon bah c'est une voie de circulation comme les autres, on fait une entrée d'aglo, une sortie d'aglo. Voilà. Donc à vélo, ne dépassez pas les 50 km/h, sinon vous êtes Par contre, à Condrieu, je vous conseille de faire le plein de flotte et de nourriture, de jus, parce que à la sortie de Condrieu, vous attaquez le dur du tronçon. C'est plus difficile d'en parler parce que là, c'est de la voie de halage sur des kilomètres et des kilomètres. C'est l'idéal pour avaler de la borne. Bon, au moins, c'est très beau, hein, ça me fait pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est long, droit et plat et il n'y a rien. Donc, si vous tombez en rade de flotte à cet endroit-là, vous allez pouvoir finir, mais ça va être pénible. Et n'essayez pas de boire l'eau du Rhône. Toi, je t'ai vu venir.
Quoi ?
J'ai rien dit, moi.
Je t'ai vu venir, ouais.
Boire l'eau du Rhône ?
Ouais, boire l'eau du Rhône, je la conseille pas. Bah, si tu tombes en rade de flotte après Condrieu.
Ah, je sais pas si tu tombes dans le Rhône.
Non, si tu tombes en rade, si t'as plus d'eau dans ton bidon, quoi. Parce que là, t'as bien 20-30 bornes où t'as pas de ville, quoi.
Donc à Condrieu, on recharge nos bidons.
Ouais, à Condrieu, on recharge nos bidons, c'est ça. Donc, vous allez, entre autres, d'ailleurs, puisque je parle d'endroits déserts, dans certains endroits déserts, vous allez passer devant des ouvrages hydrauliques, comme le barrage de Saint-Pierre-de-Beuf, le barrage d'Arras, ou beaucoup plus loin, après, vers Valence, il y a le barrage de la Roche-de-Glin. Et ils sont fascinants. D'un côté, de l'autre, de l'eau, d'un côté, de l'eau, de l'autre, le vide. Le tumulte de l'eau, ça va vous faire bourdonner les oreilles. Vous allez avoir les embruns de l'eau qui est brumisée, qui vont venir vous frapper le visage. C'est vraiment à vivre. Ça peut paraître banal, mais voilà. Et puis, si vous êtes un grand enfant, devant les écluses avec les péniches, vous allez adorer ça. Ça sera d'ailleurs la bonne occasion de vous rappeler une chose, petite interlude culturelle. La puissance du Rhône, concernant les fleuves de la Méditerranée en elle-même, n'est surpassée en débit que par la force d'un autre fleuve, le Nil. Quand vous faites le top des plus gros fleuves qui se jettent dans la Méditerranée, vous avez le Nil, derrière c'est le Rhône. Voilà, ça vous cale un petit peu le truc. Et d'ailleurs, tous les deux ont un delta très réputé pour sa faune. Bon, c'est pas tout ça, mais une fois que vous avez passé ces grandes voies de halage sur sur des kilomètres et des kilomètres, vous allez passer par des petits villages. Alors vous avez Andancette, vous avez Arras, Vion, Saint-Jean-de-Muzol. Ils sont très mignons, je pense que ça vaut le coup de passer par la vieille ville, jeter un petit coup d'œil. Le passage entre Saint-Vallier et Saint-Jean-de-Muzol, ça passe par un morceau de nature qui est un désert absolu, pas une maison, pas un chat, juste une deux routes, et ça devient limite angoissant, je dois vous avouer. Après, je suis peut-être pas tout à fait objectif parce que je commence à fatiguer un peu à cet endroit-là, mais ça m'a, j'ai eu un petit moment d'oppression. Entre Tintournon et Valence, faites attention. Moi perso, je me suis un peu perdu. Là aussi, c'était peut-être dû à la fatigue, ou alors peut-être dû à la signalisation qui est insuffisante. Peut-être que là, ça pêchait un peu, mais bon. Quand vous êtes là, si vous passez à Tournon, pensez à traverser à Tain au lieu de continuer sur la rive droite, c'est-à-dire du côté Ardèche. Sinon, vous allez prendre les voies de halage et vous allez vous paumer. Qu'est-ce qui te fait rire, Mogor?
Ce qui me fait rire, c'est que je suis déjà complètement paumé, sorti des villes. Donc
bah, c'est pas grave.
Tu
c'est pas grave.
Totalement.
Tu réécouteras, puis quand tu le feras, tu te retrouveras, t'inquiète pas.
Quand je le ferai, oui, j'aurai un GPS.
Je t'offrirai une carte de la région pour que tu puisses localiser.
Non, mais je vous le dis.
Voilà, non, j'aurai de la technologie avec moi, vous êtes fous.
Non, mais tu verras, la Vierona, c'est très simple. Hein, ça, tu défiles, tu passes par des villes, tu enfiles des perles sur un collier, et puis tu sais que arriver à la perle qui s'appelle Tournon, faut traverser le Rhône, c'est tout. Dans tous les cas, même si vous vous plantez, on retombe vite sur ses pattes. Les routes locales sont pas spécialement désagréables à emprunter, donc pas de souci. Vous essayez de rechoper globalement au nez la via vers l'endroit le plus proche, et vous verrez, ce sera assez facile. La traversée de Valence est sympa, mais il y a une ombre au tableau qui se profile, c'est la 7. Elle coupe le trajet en plein milieu, c'est très très dur à éviter, et pour ça il faut. Oui.
La 7, c'est celle qui te ramène au pont de la Mulatière.
C'est celle qui part de la Mulatière qui va jusqu'à Marseille, oui.
Tout à fait.
Oui.
Pratique.
C'est la...
Qui suit la Vierona.
Voilà, c'est ça. La Vierona, c'est un mélange d'A7 et d'A42, en fait, très exactement. C'est le
pont de l'eau. Et de Rhône.
Et de Rhône, voilà. Donc, l'A7, qui est donc l'une des plus grandes autoroutes de France, elle coupe en fait le trajet en plein milieu et ça oblige à faire des détours. Il faut passer sur un pont, il faut zigzaguer dans le centre-ville, c'est assez pénible. Et la signalisation, là, pour le coup, m'a semblé assez merdique. Donc, plus simple, vous suivez les quais et puis vous remontez l'avenue principale qui traverse Valence. Vous allez à un moment, arriver sur un quai, vous allez devoir un petit peu marcher, monter sur un terre-plein, c'est assez simple, et vous allez passer un pont routier. Je vous conseille pas de le prendre à vélo parce que les voitures circulent relativement vite, c'est un axe routier assez fréquenté sur Valence, mais donc vous montez, vous faites 500 mètres sur le trottoir en poussant le vélo, et vous allez pouvoir rechoper la voie au niveau du parc Jouvet, et là après vous pouvez repartir. Je suis pas allé beaucoup plus loin après, mon expérience s'arrête là, mais écoutez, je compte bien continuer la découverte de cet itinéraire parce que moi j'aime aller vers le sud, donc je pense que je vous en reparlerai peut-être avec quelques petits hors-série que j'enregistrerai à chaud. Voilà.
Avec grand plaisir.
Voilà.
On diffusera tout ça.
Tu peux même faire comme avait fait Grincheux avec le Ventoux, faire spécial.
Tout à fait, c'est exactement ce que je pensais. Donc ça voudra dire par contre qu'il faudra que j'ai de quoi recharger le portable parce qu'il me sert de GPS sur le vélo et ça se vide vite, donc si j'enregistre avec, ça va être un peu dur.
Il faut le brancher sur la prise d'allume cigare, non ?
C'est ça, voilà. Mais figure-toi que ça existe, ça s'appelle une prise USB de phare.
Énorme.
On en a. Ouais. Tu donneras Grincheux de te montrer, il en a une.
Je te montrerai tout à l'heure.
Voilà, bon donc je crois que mon dossier s'arrête là. Hein. Ouais, j'ai rien de plus à vous dire, mais je vous en reparlerai.
Merci beaucoup pour ce dossier.
C'était avec plaisir.
Du coup, c'est ainsi que s'achève l'épisode 6. Donc,
merci de nous avoir écoutés.
Avant tout, merci à tous les poditeurs. Merci à Vincent surtout.
Voilà, merci à Vincent. De rien, merci pour votre accueil.
Alors, où peut-on nous retrouver sur Internet? On va commencer par Vincent.
Ah oui.
Comment ça, on peut commencer par Vincent? Où peut-on retrouver Vincent?
Oui, où peut-on retrouver Vincent sur Internet? Je ne demande pas son adresse postale.
Sur Twitter, Vincent Desmond.
Très bien, on mettra un petit lien vers ton compte Twitter du coup. On a aussi un compte Twitter Cyclocast.
Et sinon, moi j'ai mon compte Grincheux.
On a un site web, cyclocast.fr, oui. Et on a aussi
une page Facebook. Facebook/cyclocast.
Voilà.
Tout simplement.
Tout simplement.
Et bien à la prochaine fois, salut.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Salut.
twist the ruling bullies on my black top. You better pocket your tush.